Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux et qui assomme ses ennemis en ouvrant la porte. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime.
Bonjour.
Et je suis aussi avec Exerve.
Hello.
Alors messieurs, on se retrouve avec une petite semaine de décalage, voilà, il n'y a pas eu de problème technique, pas de soucis, c'est juste qu'on s'est rendu compte qu'on avait oublié de prendre une semaine de vacances supplémentaires en début d'année, donc voilà, on s'est juste rattrapé sur le coup, ça nous a fait du bien. Mais nous sommes là, toujours deux épisodes par mois, il n'y a pas de soucis, la régularité est maintenu. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Dead Cells. On va revenir sur l'histoire de Motion Twin, ce studio bordelais qui a marqué la génération Flash, hein, on peut le dire comme ça. On va revenir bien sûr sur la création de Dead Cells, sur pourquoi ce jeu a eu le succès qu'il a eu, et puis on verra comment il a même littéralement transformé le studio qu'il a créé. Mais avant ça, Petit SO sponsor de cet épisode, c'est le PlayStation Plus. Je le rappelle, le PlayStation Plus, c'est cet abonnement qui vous permet d'accéder à différentes ludothèques en fonction du palier que vous choisissez. Et en ce moment, sur le palier PlayStation Plus Extra, eh ben, y a Dead Cells déjà. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas pu jouer encore à ce jeu et que vous êtes abonné, vous pouvez eh bien, vous lancer dedans. Même en écoutant l'épisode, c'est possible. Là, vous pouvez vous lancer dans Dead Cells. Mais il y a aussi d'autres jeux qui sont disponibles, qui sont un peu dans la vibe de Dead Cells. Alors moi, j'ai pensé à Blasphemous, qui était un Castlevania like, donc
ouais,
pas
qui est vraiment là pour le côté Castlevania. Il n'y a pas le côté rogue, il y a vraiment un début, un milieu, une fin. Ça lorgne même un petit peu du côté de Dark Souls. J'avais rajouté, il y a Enter the Gungeon qui est vraiment une espèce de fils spirituel de Binding of Isaac, puisqu'on retrouve le côté Twin Stick Shooter, tout
le
ça.
Le Bullet Hell.
Voilà, ou Nuclear Throne. Et il y a également Children of Morta qui lui est un mix un peu entre du Diablo-like et du roguelike que j'avais beaucoup aimé et qui en plus se joue en coop.
En coop, ça c'est, vrai, ça, c'est voilà, sympa. Ouais,
c'est vraiment cool. Et vu qu'il est dans l'abonnement, bah, vous avez branché une deuxième manette et puis c'est parti quoi.
J'ai pas fait Enter the Gungeon, mais Blasphemous, il a une DA qui est incroyable.
Enfin, ouais, vraiment, ouais, visuellement,
le
c'est...
Jeu, ouais, non, il est... Rien que pour ça, tu vois.
La musique aussi, d'ailleurs, est très, très cool.
Ouais.
Enfin, il a une ambiance, il y a tout un style. Enfin, voilà, si vous avez jamais rêvé d'une espèce d'univers parallèle dans lequel le catholicisme, ça s'est super mal passé.
Beaucoup alors, plus que... ça s'est pour tout très bien passé.
Non, mais plein des plus mal que ça s'est passé dans la vraie vie. En version Inquisition espagnole ouais, énervée, ouais. C'est, voilà, c'est le jeu.
Par contre, un petit peu âpre. Il faut être prêt.
Oui,
c'est un peu... C'est ouais. Un peu à l'ancienne.
Bah, comme, oui, tu disais Benoît, un peu inspiration Dark Souls, parce que voilà, des combats quand même assez vénères, ouais. Des boss qui font mal et on meurt et on recommence quoi.
Et puis il y aura probablement aussi le DLC hein, avec Castlevania, mais on en reparle, DLC de Dead Cells hein, qui arrivera par la suite. Donc voilà, on remercie le PlayStation Plus. On va pouvoir attaquer notre épisode après une petite musique qui a été sélectionnée par Monsieur Serve. Et vous avez choisi.
Eh ben, j'ai hésité, tu vois, j'en ai laissé plusieurs. Il y a évidemment le premier thème en fait qu'on connaît tout ce qui est le niveau Prisoner Awakening là qui est le
pour
fameux
moi,
morceau
de guitare. Pour moi la
musique
de Dead Cells que j'aime dans la tête puisque tu recommences.
C'est une de celles que t'entends le plus oui. Et une autre que j'aimais beaucoup c'est celle de la Clock Tower qui est
donc
un
ça
des,
c'est
un
le,
des
le
fin
d'eau c'est
alors c'était
c'est
à l'époque,
le boss, à l'époque.
Oh, c'était le deuxième boss parce que oui. Depuis on le verra il y en a eu toujours mais
1500.
Voilà SO du coup Valmont de notre compositeur national pour Dead Cells
et ben on se retrouve juste après ça.
We'll be right back.
Alors, Dead Cells, c'est sorti en version 1.0 le 7 août 2018. C'est sorti sur PlayStation, sur Xbox, sur PC et Switch. C'est arrivé aussi sur mobile. Par la suite, il y a eu un gros portage mobile. C'est développé et édité par Motion Twin. Et maintenant, c'est aussi développé par Evil Empire depuis 2019. Mais voilà, on reviendra là-dessus en fin d'épisode. On va plutôt s'intéresser à Motion Twin. Donc, je le disais, studio bordelais, Cocorico, Les Cannelés, tout ça... Donc, qui a été fondé en 2001, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Bah, du coup, je vais pouvoir vous raconter un petit peu ça, puisque bah, j'avais eu l'occasion de les rencontrer. Vous vous souvenez, j'avais écrit un bouquin sur Dead Cells. C'était un. J'ai passé quelques jours, voilà, à discuter avec eux. Donc, ça a été fondé en 2001. Ils étaient 5 associés, dont notamment donc, Sébastien Bénard, qui est le game designer de Dead Cells, mais également Nicolas Canas, qui sera le fondateur de Shiro Games, qui est un autre studio bordelais à qui on doit notamment Northgard et Voland, tout ça. Et c'est également lui qui a inventé, enfin qui a créé le langage de programmation Axe qui est utilisé dans Dead Cells. Voilà, tu vois, on y va dans tout les simplement. Anecdotes un peu vénères. Donc en gros, en 2001, il crée une première société, une SAS plutôt classique, et dès 2004, bah, ils commencent à se dire qu'ils sont tous un peu à gauche, et ils aiment bien le communisme, et donc ils décident de transformer leur entreprise pour devenir une SCOP, donc une société... Je sais pas ce que ça veut dire cet acronyme.
Ouais, on j'ai complètement pas, oublié... voilà, sur le parti juridique, fin du game, on n'est pas
ouais,
encore tout
on
à fait
pas,
au point.
Voilà. Mais par contre, en gros, ça veut dire que il n'y a pas de... L'idée, c'est de proposer une organisation plutôt horizontale, c'est-à-dire que les associés ont tous le même pouvoir de vote et de décision et disposent des parts équivalentes dans...
Et des salaires qui sont équivalents du peu coup, importe l'ancienneté, ouais, ça veut dire ça. Que si tu rentres dans la boîte, même 10 ans après Sébastien,
tu es un associé
normalement, voilà,
un
tu
autre,
as le même poids de décision.
Et avec un logo qui est une étoile rouge, qui reprend un peu l'imagerie soviétique, voilà,
voilà.
C'était un peu l'image
qu'ils
donnaient.
C'est pour ça que je disais
quoi.
Ça, hein. C'était
pas
pour une blague.
C'est pas une blague.
C'est complètement assumé.
Oui, c'est complètement leur délire. Et forcément, bah, ça demande une organisation qui est assez différente. Alors, évidemment, ils expliquaient que chacun a un peu sa spécialité. Donc, forcément, quand on va devoir prendre des décisions, on va plutôt se tourner vers les personnes dont c'est la spécialité. Mais l'idée, voilà, c'est que tout le monde puisse participer au débat sur toutes les décisions prises par le studio.
Et à la sortie de Dead Cells, c'est une entreprise dont on parlait beaucoup, parce que c'est, on va en reparler un peu de l'origin story de la Motion Twin, ce qu'ils faisaient, mais beaucoup de gens ont découvert qui était la Motion Twin, et c'est une organisation qui n'est pas commune, en fait, dans le jeu vidéo.
Ouais,
dans
ça
le
avait beaucoup
indé.
Fait parler. Hein. Oui. D'ailleurs, il y avait beaucoup de storytelling.
Oui,
hein, autour
il y avait
de
même
de
des documentaires. On peut penser à Game Spectrum qui avait fait un truc là-dessus.
Ouais, parce que justement, bah, cette idée de proposer une organisation un peu différente, etc., ça a été vu pendant un certain temps comme une espèce d'alternative. Dans les faits, on aura l'occasion d'en reparler tout au long de l'épisode, eux-mêmes constatent et ont constaté tout au long de l'existence de la SCOP que ben, ça ne marche que dans une certaine circonstance. C'est-à-dire qu'au-delà d'une dizaine de personnes, ouais. Ça devient vraiment très compliqué de décider, de prendre des décisions, parce que forcément, il va y avoir des jeux de politique, de pouvoir, etc. Il faut enfin convaincre tous les autres.
C'est
et donc,
ça.
Bah, s'il faut convaincre 50 personnes, c'est beaucoup plus long
bah,
que
d'ailleurs,
convaincre
c'est pour
10 personnes.
Qu'ils sont restés aussi petits. Il n'y a jamais eu... Enfin... Ils sont
jusqu'à une vingtaine.
Jusqu'à Dead Cells, il n'y avait pas trop envie de trop grossir. Quoi.
Non, ouais, ils sont montés jusqu'à une bonne vingtaine au plus gros de la période des jeux web. Et aux alentours de Dead Cells, ils étaient redescendus à 8, 9 et aujourd'hui ils sont 7. Donc voilà. Et bah, du coup, comme on ouais. fait. Étant donné que ce n'est pas une entreprise comme une autre, on n'a pas des recrutements classiques. C'est-à-dire que bah, comme on recrute de futurs associés, le process de recrutement est très long. En général, ils considèrent qu'il faut à peu près un an et demi d'essai, où en gros ils les emploient classiques, avant. De décider si oui ou non ils acceptent de les faire venir dans
ils
le loft.
Ils ont un saut qui est appliqué comme
ouais,
ça
voilà.
sur le coup, comme ça, essayez, vous faites partie de la Motion Twin.
Non, mais c'est très particulier et justement, il y en a une des dernières membres qui était arrivée, qui était en cours justement de recrutement quand je les avais rencontrés là pour le bouquin et tu vois, ça faisait déjà 8-10 mois qu'elle était là et elle avait encore 6 mois à faire ses preuves avant de devenir vraiment associée. Quoi.
J'en profite puisqu'on parle un peu d'organisation horizontale pour faire un petit coup de pub à une vidéo YouTube qui était sortie, qui est de la chaîne People Make Games et qui est sur Valve, qui est aussi une boîte, alors pas tout à fait une scope, pas vraiment, mais néanmoins il y a ils affichent beaucoup cette organisation horizontale qui a aussi ses inconvénients et je vous recommande d'aller voir la vidéo parce que bah, c'est assez intéressant. Mais pour revenir donc sur Motion Twin, bah voilà, ils ont commencé leur carrière, enfin ils ont fait le gros de leur carrière dans les années 2000 avec des jeux web et des jeux flash notamment, des jeux qui ont marqué aussi votre petite vie de joueur, messieurs.
Oui, bah, en fait c'est rigolo parce que sans s'être concerté, on n'avait pas joué tout à fait au même jeu, mais Max connaissait aussi d'autres jeux et je pense que beaucoup de gens, sans le savoir, vous avez joué à des jeux de Motion Twin, puisque du coup ils avaient un premier portail qui s'appelait, je crois, Fruityville, enfin je sais plus, Miniville, enfin ils avaient plein de noms comme ça un petit peu. Miniville, c'est peut-être un truc Facebook. Parmi les jeux les plus connus, oui c'est ça, c'est Miniville, il y a La Brute. Si vous avez connu les forums de jeuxvideo.com à une époque, il y avait des tonnes et des tonnes de posts où c'était juste des liens de gens qui faisaient en gros de la pub pour aller battre votre brute. Et il y avait Horde, qui est peut-être un des plus gros succès aussi du jeu.
Qui est un de leurs derniers avant justement d'avoir fait la transition Dead Cells, mais il y avait Cadeau Cadeau. En fait, c'est vraiment la période quand donc moi j'étais au collège, donc les années milieu 2000, où t'as Prizy, donc ça c'est pas eux, hein, mais c'est la période un peu flash, on va dire, où t'as des jeux navigateurs, des jeux flash, donc t'as Prizy d'un côté, tu vas avoir les jeux de la Motion Twin, donc Cadeau Cadeau, Brut.
Comment s'appelait cette grosse plateforme là, tu sais, où il y avait une sorte de char d'assaut, le logo, c'était un site
Non, parce que je pense à Kongregate.
Kongregate, c'était un site aussi de trucs flash, mais il y avait un autre site comme ça. En fait, il y avait des plateformes sur lesquelles on pouvait jouer à des jeux en flash.
Il y avait O-Game, sinon qui existe toujours,
qui est un MMO spatial.
Et c'est des, donc pour dire, c'est globalement, en général, t'as une offre gratuite et t'as un service, on va dire, premium, où en général, tu vas appeler par téléphone, parce que c'est l'époque, hein, t'appelles par téléphone, on te donne un code et ça t'est facturé quelques euros, tu vois, je sais plus exactement combien. Et t'as le droit de jouer plus ou t'as un compte un peu premium en fonction des jeux que j'ai cités, mais à l'époque c'est assez gros, tu vois, au collège comme je disais, Prizy c'était quand même c'est un giga truc. Il y a d'ailleurs, puisqu'on parle d'autres chaînes YouTube de Sylvain, donc c'est Sylvain à la place du A, c'est un Q, et il a fait toute une petite rétrospective de l'histoire Prizy.
Et dans le cas de Motion Twin, il faut savoir que s'ils ont pu exister aussi longtemps, c'est parce que ça marchait très bien, tu vois. Ils ont lancé en période flash, ils ont ship quand même plus de 150 jeux, pour vous donner une petite idée, c'est énorme.
Sachant que rien que Cadeau Cadeau, c'était plein de mini-jeux, donc déjà Cadeau Cadeau, c'était peut-être déjà 50 jeux, voire plus.
Il y en avait des tonnes à l'intérieur, en fait, et je sais plus, alors j'ai plus les chiffres exacts, je me souviens, ça c'est de tête, il me semble qu'ils étaient à plus d'un million d'utilisateurs, tu vois, réguliers par mois, ce qui pour l'époque était immense.
C'est ma boule, aujourd'hui, quand on compare des jeux, et quand on voit un nombre d'utilisateurs comme ça, unique, c'est déjà
costaud, donc ça marchait très très bien. Voilà, Horde, c'est un jeu qui a marqué pas mal de monde, parce que c'était un jeu de coop-tition, donc il y avait un peu de coop, il y avait un peu de compétition asynchrone, les gens jouaient sur le truc web, en gros c'était un peu une sorte de Walking Dead, quoi. C'est-à-dire qu'on vivait dans un petit village de survivants, on devait se protéger des zombies qui attaquaient la nuit, donc littéralement la nuit, quand on allait faire dodo, c'était en temps réel, et on devait coopérer pour survivre, mais en même temps le but c'était quand même de rester le seul survivant, donc il y avait un petit peu comme ça des tensions.
Je pense que j'y ai joué aussi, vois, on en parle, pareil, le jeu de ninja là, dont tu me parlais un peu plus tôt en préparation, je pense que vraiment sans savoir j'y ai joué, tu sais, mais très vite fait, tu vois, sans vraiment passer vraiment de temps.
Juste des jeux ultra populaires,
c'était gratuit, c'était sur navigateur,
extrêmement
facilement. On pouvait y jouer au CDI, tu vois, enfin moi je sais que souvent je faisais mes parties, je faisais ça au CDI, voilà, c'est comme ça.
Mais malheureusement, toute cette époque de jeux flash, ça c'est un petit peu quand même disparu, parce qu'il y a un truc qui est arrivé,
c'est l'iPhone. Et en fait Apple, donc l'iPhone c'est 2007, hein, le premier iPhone, et Apple a décidé de faire un truc, c'est qu'ils ont dit flash, on vous emmerde, on ne veut pas de flash sur notre téléphone, et on va plus supporter flash. Et donc ils ont signé l'arrêt de mort du flash, qui a mis quelques années à mourir de sa belle mort, et ils ont lancé de leur côté le fameux App Store, et ils ont commencé à vraiment créer l'écosystème de jeux mobiles qu'on connaît aujourd'hui, qui au départ a tenté d'être premium, c'est-à-dire des jeux qu'on payait une petite somme et après on avait le droit d'y jouer, et très rapidement en fait
le free-to-play
est arrivé, et c'est toutes les merdes qu'on connaît aujourd'hui, je suis désolé parce que vraiment en termes de modèle,
le M-word a été dit
en termes de modèle économique, vraiment là en ce moment je joue à pas mal de jeux parce que j'ai envie de me remettre un peu à la page, et c'est tellement toxique et agressif le modèle économique, c'est chaud. Et bref, les Motion Twin, ils ont essayé de se mettre à la page et de passer eux aussi au mobile en changeant de techno, etc. Ils ont eu quelques tentatives de jeux free-to-play qui n'ont pas marché. Et en fait, ce que m'expliquait Sébastien Bénard à l'époque, c'est que quand tu fais des jeux mobiles aujourd'hui, tout est lié à des algorithmes et à comment tu arrives à garder tes utilisateurs engagés avec ton jeu et que tu arrives à les faire payer en fait à un moment donné. Et donc ce qu'il expliquait, c'est que tu passes genre un tiers de ton temps à faire du GD et faire le jeu, et les deux autres tiers c'est de faire de l'étude de data,
travailler
le tunnel de conversion, etc. Et en fait, ça les intéressait pas, quoi.
C'est aussi l'époque donc des réseaux sociaux et c'est des jeux qui peuvent être liés. Du coup, t'avais les jeux Facebook, ce qu'on appelait les jeux Facebook.
Oui, Farmville,
voilà,
tout ça.
Voilà, Farmville
là.
Et compagnie. Donc tout ça, c'est un peu la même période et Candy voilà, Crush. Avec beaucoup les données utilisateurs, etc., qui rentrent dans l'équation.
Ta tante qui t'invite à jouer, oui, machin, bah, avec les invitations, je sais pas quoi.
Mais c'est vraiment poussé très loin. C'est-à-dire qu'ils m'en parlaient. Enfin, tu vois, c'est genre, ils arrivent à étudier les données de chaque joueur et de chaque joueuse un peu. Ils arrivent à savoir que tel joueur va être plutôt sensible à tel genre de sollicitation après tant de temps d'inactivité, machin, bidule. Enfin, voilà, on est dans de la manipulation plus que dans du game design.
Oui, voilà, c'est un game design un peu sombre, on va dire. Ouais, mais ouais. C'est...
Bah, les game designers, t'en as peut-être un et t'as 40 data scientists. En vrai, ouais, c'est ça la boîte qui fait
ça,
le jeu,
la boîte aujourd'hui. Et bon, c'est vraiment une approche qui leur plaît pas à Motion Twin. Et comme en plus, ils sont un peu dans une phase de rupture parce qu'en interne, ça va pas trop, les gens savent pas trop dans quelle direction on va aller. Bref, ils commencent à partir sur deux principaux projets et notamment un qui s'appelle Horde Zero et qui sera en fait un peu la base de ce que sera un jour Dead Cells.
Bah du coup on peut passer à Dead Cells, hein, tout simplement, parce que ça va être un peu le projet entre guillemets de la dernière chance pour eux, puisque voilà, le mobile, l'aventure mobile a pas forcément été réussie, le flash ça y est c'est plus du tout dans la tendance, donc ils vont tout simplement se dire bah on va tenter de faire du jeu PC premium classique et se vendre sur Steam et après sur console.
Et juste pour se repérer, donc là on est en gros la période mobile qu'ils ont tenté, donc ça va être entre 2007 et 2011-12 dans ces eaux là à peu près, et donc Dead Cells, enfin le Horde Zero, ça doit être
entre 2012 et 2014 à peu près. C'est une période où il y a eu pas mal de fluctuations, hein. Il y a eu beaucoup d'inertie, ils ont tenté beaucoup de choses, il y a eu des recrutements, enfin voilà, c'est une période très difficile pour eux, de ce qu'ils m'avaient expliqué.
Débat en interne.
Il y a eu une longue, en fait, Dead Cells, avant que ça commence vraiment à être développé, et ça c'est plutôt vers 2015, enfin, il y a une grosse période un petit peu où ils se cherchent, où voilà, ils se posent la question de ce qu'ils vont faire, mais voilà, on arrivera vers cette décision de faire du jeu PC Premium, et puis aussi de faire ce qu'ils appelleront très rapidement un Rogue Vania, parce que bon, quitte à se lancer dans une dernière danse, ils ont voulu faire un type de
jeu. Kyo comme ça aujourd'hui, on en est là.
Oh, est-ce que c'était Kyo? Je ne sais pas.
C'est l'époque, on citait un peu les jeux Flash.
Eh bien écoutez, voilà, SOAE, on les embrasse de là où ils nous écoutent. Mais donc, de faire du Castlevania, parce que voilà, c'est un style de jeu qu'ils aiment, Sébastien qui est fan de Castlevania, de Symphony of the Night.
Cardus donc, aussi, qui est le directeur artistique.
Voilà, l'envie de faire ces jeux, mais forcément de se lancer dans un Castlevania-like à juste 7 ou 8 développeurs, bah, c'est quand même une aventure qui est un peu risquée. Alors, dans le monde indé, on en discutait en préparation, ça s'est déjà vu, il y a un certain Hollow Knight qui existe, qui a été fait à 3, mais bon, on sait que c'est un jeu qui n'a pas été fait forcément dans la lucidité. Il y a eu un énorme succès, donc c'est facile aujourd'hui avec le recul de dire oui, bien sûr, c'est possible, mais bon, c'est quand même
exceptionnel.
Voilà, un alignement des planètes, alors qu'eux, ils ont été un peu plus lucide en se disant bon bah voilà, ça va être compliqué, donc peut-être faire plutôt le choix de mélanger ça avec du roguelike, puisque déjà à cette époque, hein, on est en 2012-2013, commence à avoir les premiers gros succès du roguelite. Il y a déjà Spelunky qui est sorti en 2008, donc ça fait déjà un moment, mais Isaac. Notamment Rogue Legacy, il y a eu Isaac qui est sorti, donc ça y est, cette vague là commence à arriver et à montrer qu'on peut faire des choses, donc ils se disent eh bah allez, on y va. Ils se lancent dans le développement. On peut s'arrêter un petit peu sur la partie graphique, le choix qu'ils ont fait, puisque de loin comme ça on pourrait dire que le jeu est en pixel art, alors que ce n'est pas le cas, hein. Ouais. À l'époque d'ailleurs il sort dans la même année, tu vois, il y avait Hyper Light Drifter, il y avait Owlboy, je sais pas si tu te souviens, tu sais. C'est des jeux qui étaient extrêmement fins avec des pixel art. Eux ils sont pas partis là-dessus parce qu'ils savent aussi que ça prend énormément de temps, et en fait ils se sont inspirés des jeux que sont BlazBlue et Guilty Gear, qui sont des jeux de combat japonais, hein, si je dis pas de bêtises,
c'est Arc System qui fait
assez,
ça
assez vénère, et en fait les modèles dessus sont faits en 3D et après ils appliquent une surcouche comme ça pixelisée pour donner un petit peu un style pixel art.
Ouais, j'ai plus le détail exact du process, mais en gros c'est un truc à base de ils vont réduire la taille du bidule.
Exactement,
et ensuite
voilà, c'est
le grossir d'un coup, et exactement. Ça donne un côté super aliasé et on a l'impression que c'est du pixel art.
Alors
c'est presque
pas
aussi
du
simple
tout.
Que ça
c'est ça, mais en fait, et l'intérêt surtout, c'est vraiment un intérêt en termes de production et de pipeline, parce que ça leur permet non seulement de se réduire la quantité de travail, de pas avoir à redessiner chacune des différents persos, parce qu'ils peuvent mélanger des assets 3D. Et après, ouais, c'est surtout sur le travail des animations, ils vont définir ce qu'on appelle des keyframes, hein, c'est-à-dire les frames d'attaque, les images de de pose basique, et ils vont lier ça en fait avec de l'animation 3D.
Ouais, une des techniques basiques d'animation, pour vous donner une idée pour les gens qui voient pas à quoi ça ressemble, on va mettre le personnage dans une position 1, le personnage dans une position 2, et le logiciel va calculer comment en fait il va réaliser le mouvement pour aller de l'un à l'autre. Tu vois, il y a tout ce système d'articulation qui
permet de
faire.
Et ça, c'est possible
en 3D. Et ça, en 3D, c'est
parce qu'en 2D, c'est pas quelque chose que tu vas faire. Tu vas dessiner l'ensemble des assets.
Frame, frame, si vous regardez les vieux jeux de combat style SNK, les
Street Fighter 3,
c'était du pur dessiné, et c'est très beau, le résultat est incroyable, mais en termes de production, c'est infernal.
Et c'est des dilemmes que tu retrouves aussi dans vraiment l'animation, tu vois. Donc les animés japonais, par exemple, parfois ils vont faire le choix d'avoir des modèles 3D parce qu'ils avaient juste pas le temps ou pas le budget de dessiner toutes les poses, tous les trucs. Ils ont un modèle 3D qui est animé. Et puis,
souvenez-vous, dans les épisodes de Dragon Ball, t'avais souvent, je me souviens qu'il y avait une animation où c'était genre il y avait des cailloux et en fait c'était juste un gif, tu vois. T'avais deux frames de gif qui passaient très très vite et t'es là, ouais, c'est bon, c'est une animation, ça passe.
Et puis surtout, ce qui est vachement pratique, c'est aussi même par rapport au lien avec le game design, où quand les designers ils vont devoir rééquilibrer, par exemple, je sais pas, il y a une attaque qui fait beaucoup de dégâts, donc on va essayer de la ralentir un petit peu, qu'elle ait un peu plus de temps d'exécution pour l'équilibrer tout simplement. Là encore, les animateurs ils ont juste à régler sur leur keyframe et bim bam boum, ça y est, ça peut ressortir.
Alors,
tout
c'est
seul.
C'est pas bim bam boum, mais non, mais c'est infiniment plus simple que si c'était du pixel art.
C'est beaucoup plus simple et effectivement de le faire. Donc voilà, ça encore une fois, c'est un des trucs intéressants sur l'esthétique. Et puis voilà, 2 ans et demi de développement où il y aura aussi beaucoup d'équilibrage, de rééquilibrage, et notamment parce que le jeu va sortir non pas en 2018, il va sortir en fait d'abord en 2017 en version Early Access, puisque là aussi ils vont adopter ce modèle-là.
Et ce qui est rigolo, c'est que aujourd'hui c'est un modèle qui est très connu, etc. À l'époque, c'est encore un peu étrange. C'est-à-dire que ça fait pas si longtemps que Steam permet de faire de l'Early Access, on est toujours à l'époque du Greenlight, enfin c'est une autre période pour Steam, c'était encore une autre époque, mais il y a quand même quelques jeux qui ont réussi à bien fonctionner aux alentours de l'Early Access, ou en tout cas sur la gestion de ces phases-là, notamment Subnautica et Don't Starve, qui vont être des grosses références.
On en avait parlé quand on a fait l'épisode sur Subnautica, que justement le studio Unknown Worlds, si je dis pas de bêtises, qui s'était inspiré de Clay et de Don't Starve, avait vraiment regardé comment eux ils avaient vendu leur jeu au long cours avant même qu'ils ne sortent, et qui s'en étaient inspirés. Et là, c'est vraiment ce qu'ont fait la Motion Twin. Ils ont regardé les bonnes pratiques, ils ont dit ok, on va essayer de reprendre ce modèle. Et juste du coup, pour décrire un petit peu, c'est quoi les bonnes pratiques de leur
dans ce cas-là, c'est alors du coup, je reprends des mots donc de Steve Philby, c'est un nom qu'il faut retenir, parce que du coup, c'est un Australien qui est arrivé en France, qui s'est marié en fait tout simplement, et il a été embauché chez Motion Twin. Au début, il bossait avec eux assez rapidement. Il n'était pas forcément dans le même délire, parce qu'il était vraiment pure marketing. Il a créé sa petite boîte Indie Catapult à côté, mais ils étaient dans les mêmes bureaux, donc il bossait avec eux. Et au moment où il est vraiment à temps plein et disponible, en fait, Motion Twin n'a que Dead Cells à s'occuper, et donc c'est une situation assez exceptionnelle pour des jeux indés à l'époque. Ils ont quelqu'un à demeure en interne qui s'occupe que du marketing, ce qui à l'époque est vraiment très rare. En général, il y a beaucoup de studios indés où ça va être le ou la game director, tu vois, qui va s'occuper du marketing en parallèle du reste.
Ou un publisher, tout simplement.
Ou ils vont tout déléguer à un publisher.
Il y a déjà Devolver qui est installé à cette époque.
Mais d'avoir ça en interne, c'est pas encore si courant que ça, donc ils ont une situation un peu bénéfique.
Et même encore aujourd'hui, c'est pas si courant que ça.
C'est pas très courant, et donc en gros, son job, c'est vraiment de faire en sorte de vendre Dead Cells, mais d'abord de vendre l'idée de vendre Dead Cells aux gens de Motion Twin, parce que pendant des années, ils avaient jamais fait de marketing, ils ont jamais eu besoin de faire de publicité, vu que leurs jeux web ont toujours bien fonctionné, et ça, c'était une grosse discussion qu'ils avaient en interne. Ils voulaient pas faire de pub pour leurs jeux, ils ont été convertis, et j'avais noté cette fameuse phrase qu'ils m'avaient répétée pendant les 2 ou 3 jours où je les avais croisés. Le marketing, en fait, c'est bien, ça les aide. Et donc, pour revenir à ces bonnes pratiques d'Early Access, l'idée, c'est d'en faire un show, c'est-à-dire que chaque sortie de mise à jour doit être traitée comme une mini sortie complète de jeu. Donc il faut qu'il y ait un nom, il faut qu'il y ait un artwork spécial, éventuellement il va y avoir un thème bien identifié. Il y avait la baguette update typiquement sur Dead Cells, tu vois, où ils avaient fait tout un délire autour des baguettes. Il y avait la brutal update où il y avait tout un truc comme ça. Bref, c'est vraiment traité comme une mini release, donc il va y avoir un trailer, va y avoir une anticipation, va y avoir un rétro planning marketing, etc. Ce qui permet de maintenir engagés les gens sur la durée de la production, et de faire en sorte qu'ils aient vraiment le sentiment d'accompagner la production du jeu pendant l'accès anticipé.
Et puis tu crées déjà une communauté en fait, parce que c'est, quand on dit, ère des réseaux sociaux, depuis le web flash, c'est hyper important, et de montrer que tu les as écoutés, pas d'un point de vue cynique, juste l'early access c'est aussi pour ça, c'est du gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des feedbacks, qui t'apportent des choses, qui vont t'aider pour l'équilibrage de ton ton jeu, tu les écoutes, et bah tu montres aussi que tu les écoutes, que t'as intégré le retour. Je sais plus, je crois que c'est toi qui disais, Hugo, il montrait en couleur.
Ouais, ce c'est ça, quand il faisait des patchs où il y avait vraiment la liste de toutes les petites ajouts qui étaient faits, en fait, il y avait une couleur spéciale pour les ajouts qui avaient été suggérés par la communauté. Donc ouais, comme tu dis, il y a ce côté de, on a du feedback, mais on vous fait du feedback sur votre feedback, ouais, pour montrer que c'est vraiment
un cercle. Et on vous dit, voilà, que bah, ça, c'est des retours qu'on a eu sur le Discord, parce que ça passait beaucoup sur le Discord à l'époque, et du coup, ben voilà, on l'intègre au jeu.
Donc, ouais. Par exemple, il mentionnait qu'au début, en fait, on pouvait, tu sais, au collecteur, en fait, tu pouvais dépenser des cellules pour améliorer tes armes que tu avais sur toi, et en fait, ce qui faisait que bah, les gens, ils restaient toujours un peu sur la même arme, parce qu'ils investissaient tout leur pognon dans une seule arme pour la rendre beaucoup plus puissante. Et les gens aimaient bien, c'était fun, mais il y a une petite partie du public qui disait, le problème, c'est qu'on reste toujours sur les mêmes armes. Et ils se sont dit, putain, ça, c'est vrai que c'est pas bon pour nous, nous, on a envie que les gens, ils changent d'arme. Et c'est là, en fait, qu'ils ont changé de système où, au collecteur, tu vas débloquer des potentielles autres armes qui sont plus puissantes. Et comme ça, ça te force, en fait, à t'adapter. Donc voilà, il y a vraiment des retours qui ont été faits et des gens qui ont aussi, tu vois, c'est aussi l'intuition du game design de dire que même si ce que t'es en train de faire, ça plaît là aux gens, mais que t'as une petite partie qu'on vu un problème et toi, en tant que game designer, tu dis, ça, c'est un vrai problème et notre jeu, il sera meilleur comme ça. Même s'il est bien maintenant, il sera meilleur comme ça. Et je trouve que c'est intéressant, tu vois, ça montre aussi cette maturité-là, parce qu'il faut pas l'oublier, voilà, 15 ans de carrière quand ils font Dead Cells, et c'est ça aussi, je trouve, qui marque le développement de Dead Cells, et même quand on joue au jeu, on voit que c'est justement pas du tout le premier jeu de la Motion Twin, quoi.
Et justement, à l'époque où ils étaient sur le web, bah, ils avaient déjà une grosse communauté, ouais, parce que bah, les gens de Motion Twin, enfin, tu vois, je me souviens, toi, tu le disais en préparation, Maxime, tu vois, le pseudo Deep Knight de Sébastien Bénard, tu vois, c'est des trucs que tu voyais passer sur les forums, etc. Donc, ils avaient déjà compris et cette intelligence de dire, bah, il faut qu'on s'appuie sur une communauté pour pouvoir exister. Et quand ils arrivent avec Dead Cells, ils ont déjà, entre guillemets, une bonne partie des bonnes pratiques.
Ouais, et pas la peur d'échanger, en fait, parce que bah, du coup, le mec, il était déjà là.
Oui, parce qu'il y avait
cette culture-là, en fait, de discussion, un rapport au public qui est, en fait, assez proche, quoi, finalement, qu'on n'a pas toujours dans
le jeu. Ils ont identifié assez vite pas mal de problèmes, notamment on en reviendra peut-être après, mais le système de progression des stats, où il y a toujours eu 3 stats pour évoluer, il a changé, je crois, 3 ou 4 fois tout au long de l'Early Access, avant de trouver le système qui est celui actuel, parce qu'il a mis du temps à se mettre en place, quoi.
Et j'y repense à un de leurs anciens jeux qui s'appelait donc les Cavernes de Hammerfest, qui était donc un seul jeu, qui était une espèce de bubble, mais voilà, t'incarnes un perso et tu descends de niveau en niveau, tu essaies d'aller de plus en plus loin. Et c'est un jeu de mémoire, hein, j'espère que je me trompe pas, mais ils ont rajouté vraiment du contenu parce que assez rapidement, au bout d'un moment, des gens étaient allés au bout.
Ouais.
T'avais un peu terminé le jeu, mais je crois qu'ils ont rajouté, tu sais, des mondes secrets, plus de niveaux, plus de trucs, plus de boss. Donc il y avait quand même
ils ont toute cette expérience, voilà, de savoir aussi maintenir des jeux. Hein. C'est, enfin, on en rigole aujourd'hui, mais parce que c'est vrai qu'il y avait cette idée que le jeu sortait de nulle part et le studio sortait de nulle part, mais ça montrait aussi d'une certaine manière l'espèce de
la scission.
Ouais, tu sais, il y avait une sorte entre le jeu web, vrai jeu vidéo, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de commentateurs qui disaient, voilà, c'est leur premier jeu, était là. Lol, non, bah non, en fait. Mais forcément, si les gens jouaient pas au jeu web, ils pouvaient pas connaître, donc c'est normal, quoi.
Et qui dit vrai jeu vidéo et marketing de vrai jeu vidéo dit Twitch aussi. C'est quelque chose qui a vraiment été intégré dans la stratégie où tu disais, Benoît, ils ont plutôt visé les petits streamers pour essayer de remonter et réussir même à remonter en haut.
Ouais, en fait, ça, c'était donc toute la stratégie de Steve là-dessus, c'était de faire en sorte que de comment on va faire connaître notre jeu. Il s'est dit, bah, soit on peut aller contacter les très gros streamers, tu vois, genre Squeezie. Les Squeezie, machin, etc., tout ça. Et en fait, eux, ils ont fait l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont d'abord contacté des tout petits streamers. Ils m'avaient filé la clé assez tôt, mais tu vois, moi, j'avais genre 100, 150 viewers. Ils avaient même visé des gens à 50 viewers, donc tout petits. Et en fait, ils comptaient sur la FOMO, donc la peur de manquer, de la fear of missing out des plus gros streamers qui se disaient, pourquoi les gens qui sont moins gros que moi, ils ont accès à un jeu qui a l'air cool et pas moi. Et du coup, eux, spontanément, allaient contacter les gens de Motion Twin et de fil en aiguille, ils se retrouvaient à avoir...
de faire un travail inverse, tu vois, que ces gens-là, plutôt que d'envoyer plein de mails à des gens qui vont pas te répondre, de plutôt lancer de la pêche et dire, bah voilà, comme ça, ces gens-là vont revenir vers moi.
Et ce qu'ils disaient aussi, c'est qu'ils s'en foutaient de donner des clés. C'est-à-dire qu'il y a souvent beaucoup de studios qui ont peur que les clés, elles finissent sur G2A, etc. Tu vois, on en avait parlé de tout ça. Et en fait, ce qu'ils disaient, c'est on s'en fout, parce que de toute façon, tu donnes des clés. Potentiellement, il y a des gens qui vont y jouer, ils vont potentiellement en parler, et donc à la fin, ça va être gagnant pour eux, quoi.
Et puis, c'est des petits milieux, je veux dire, les petits streamers. Enfin, très souvent, statistiquement, si t'as réussi à en toucher quelques dizaines, quelques centaines, t'en as au moins un qui connaît un gros, et ainsi de suite, ça finit par
monter. Ouais, et au pire, il y a un des gros qui va regarder un petit streamer jouer un jeu dont il a jamais entendu parler, et il se dit pourquoi lui, il a accès à un truc que moi, j'ai pas accès, tu vois, forcément. Et bah, du coup, de fil en aiguille, il se retrouve à faire un lancement d'Early Access qui a vraiment cartonné. Du coup, il m'expliquait le jour du lancement, il y avait un type, alors moi je les connais pas, mais c'est un type qui s'appelle Lyric, qui est a priori assez gros, connu comme streamer. Et pendant deux jours, Dead Cells était genre le deuxième jeu le plus streamé de Twitch, tu vois, grâce à cette technique-là. Ce qui fait que, bah, en une semaine, au lancement de l'Early Access, ils en avaient déjà vendu 100 000 unités, ce qui était explosé par rapport à leurs objectifs. Ils n'avaient jamais imaginé en vendre autant, quoi.
Donc tout à fait, et ce sera un succès vraiment tout au long de l'Early Access, hein, ça va bien fonctionner, et puis la sortie qui sera d'ailleurs fêtée un peu en fanfare avec l'arrivée d'une bande-annonce un peu en dessin animé.
C'est un truc que, on en avait parlé, parce qu'en plus ils étaient dans cette période-là quand j'avais fini d'écrire le bouquin, donc ils étaient en train de discuter avec le studio, donc c'est rigolo parce qu'ils ont contacté donc, le studio d'animation Bobby Pills, qui fait des films d'animation pour adultes habituellement, donc pas du tout not safe for work, hein, vraiment, ne cliquez pas sur les liens de Bobby Pills si vous êtes au taf, et en fait ils aimaient bien leur boulot, donc ils leur ont demandé de leur faire une vraie bande annonce dessin animé, et du coup ça a cartonné. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a constaté par la suite, on en a discuté entre nous, que ça a un peu lancé une espèce de mode, et on a vu depuis beaucoup de jeux qui utilisent ce système là en fait pour faire du marketing. On avait noté Children of Morta, dont on avait parlé, Hades, son release trailer, il était à moitié en animation, à moitié en gameplay. Hyper Light Breaker, le prochain jeu de Art Machine, a été
principalement montré en dessin.
Voilà. Et il y en a eu plein d'autres. Et a priori, on avait cherché le premier, on s'est dit ça devait être Don't Starve, probablement, qui avait lancé la mode, parce que Don't Starve, ça collait bien, hein, l'idée de faire du dessin animé. Mais voilà, cette idée de faire un petit trailer en dessin animé, c'est un truc qu'on revoit de plus en plus chez pas mal d'indés.
Je sais pas si un jour on en parlera de Don't Starve dans l'émission, c'est pas impossible. Ouais. Mais c'est vrai qu'on se rend compte quand même, c'est un jeu indé qui a fait tellement de choses, en fait, qui a été un modèle sur tellement d'aspects.
Clay, c'est un des premiers gros studios indés aujourd'hui.
Clay, c'est un studio indé aussi qui a une histoire assez passionnante. Donc, il y a moyen peut-être qu'un jour ça arrive dans cette émission via Don't Star ou via d'autres jeux de Clay, hein, puisqu'ils n'ont pas fait que ça. Mais voilà, le jeu sort, donc on l'a dit, en 2018. C'est 89 sur Metacritic. Il est très, très, très bien accueilli par tout le monde. C'est le jeu auquel il faut jouer au moment où il sort. Tout le monde en parle. Et en termes de vente, on est arrivé à quelque chose d'assez fou. En 2021, donc 3 ans après, il a vendu 5 millions d'exemplaires, mais ça c'est seulement sur PC, puisqu'aussi sur mobile, a priori, il y aurait eu 5 autres millions qui auraient été vendus. Faut dire que, en fait, quand il y a eu un truc, c'est quand il est arrivé en Chine, le jeu, ça a été n'importe quoi. Enfin, il est arrivé justement en 2021, en 2020 en Chine,
j'sais 2021. Plus.
Et il a fait très vite en fait 2 millions, enfin, genre c'était un peu n'importe quoi. Donc,
et il a cartonné, il faut dire que leur version mobile, enfin, tu vois, c'est pas le genre de jeu auquel tu t'attends à jouer sur téléphone, et en fait ça marche de ouf. Enfin, leur portage, il était vraiment super quali.
Je crois pas que c'est eux qui l'ont fait.
C'est pas entièrement eux, il me semble qu'ils ont fait bosser une autre équipe,
une autre boîte.
Mais bon, voilà, ça marche très très bien, et en Chine ça prend très vite. Et justement, quand il a vu ça, c'était une anecdote de Steve aussi qui me racontait ça, où il était tombé sur un stream d'un joueur chinois où il avait genre 150 000 viewers, sur la version de Dead Cell en anglais.
C'est un petit streamer là-bas.
Non, c'était quand même costaud, mais il est allé voir direct les équipes en mode mais vous me faites tout de suite la version chinoise, sinon je vous défonce.
Ils ont localisé le jeu en chinois,
et ça a été un carton.
Exactement, tu vois, on mesure pas. Je crois que c'était justement des gens de Dead Cell, donc on parlait de chez ZQSD, qui est un autre podcast. Qui racontait ça, le fait que, en fait, tu te dis, mais il y a un potentiel de vente, tu vois, qui est absolument fou dans un pays comme ça où il y a 1 milliard, voire plus d'habitants. Tu te dis, en fait, t'as un marché qui est là et qui tient juste au fait que, traduis ton jeu peut-être, et puis peut-être tu vas pouvoir en vendre 2 millions.
Voilà. Ouais, et puis, c'est aussi un peu l'époque où il me semble que la Chine souffre quand même de plus en plus. Il y a toujours de la censure, les jeux doivent passer par un peu le département de la censure, je suis pas sûr que ça s'appelle comme ça.
Non, mais c'est littéralement ça, c'est à dire qu'en fait il y a une agence gouvernementale qui valide ou pas le contenu des jeux, donc de la censure.
Bonjour
département, bonjour Jean-Michel de la département de la censure.
Et bien sûr, chaque jeu étranger qui doit sortir en Chine doit passer par un sponsor et doit passer en fait par un studio, bah, alors souvent Tencent, Netgear, NetEase, etc., qui vont les aider en fait à sortir sur place et à l'exploiter sur place. Mmh. Parce qu'il faut qu'il soit exploité par une entreprise chinoise, sinon il n'a pas le droit de sortir.
On peut noter aussi que le jeu, pour terminer sur la critique, qui gagnera le meilleur jeu d'action aux The Game Awards 2018 face à Call of Duty, Destiny, Far Cry. Donc voilà, c'est un jeu indé qui arrive à, en tout cas, dans des sphères comme ça, qui arrive à tenir la dragée à ce genre de production, c'est quand même
c'était incroyable, tu vois. C'est genre que ça soit le meilleur jeu indé, ok, pas de soucis.
C'est vraiment moins étonnant, tu vois, de voir des indés briller aux Game Awards, parce que j'ai l'impression que ça fait vraiment partie du tissu, tu vois, des jeux qui sortent, tu vois, Hades, etc. C'était pas étonnant en fait qu'Hades rafle plein de trucs, mais là en 2018, on est un petit peu avant.
Et surtout, c'est une catégorie, tu vois, les jeux d'action, c'est quand même une catégorie habituellement, tu vois, c'est un peu la chasse gardée des AAA, et tu dis, putain, ils ont battu Call of Duty, Destiny, Far Cry. C'est des jeux qui ont un scope infiniment plus gros, donc il y avait un côté quand même, tu vois, la victoire des indés, quoi.
Et la victoire, bien sûr, du studio bordelais, enfin vraiment un gros succès, et puis voilà, du jeu vidéo français même, parce que, enfin, tu vois, 5 millions sur un jeu indé, c'est pas tous les jeux qui font ça.
Et ça continue de se vendre, tu vois, et là ils vont donc annoncer il y a pas longtemps un gros DLC Castlevania, donc en fait leur roadmap est toujours aussi énervé. Dead Cells, on va encore en entendre parler pendant quelques années.
Avant de passer à l'histoire, je rappelle que vous pouvez soutenir Fin du Game en faisant un petit don sur Patreon. Le lien est dans la description. On essaie de viser un prochain palier avec des invités. C'est notre objectif pour la saison prochaine. C'est d'ouvrir un petit peu les portes de mon appartement déjà, mais aussi du podcast à d'autres personnes pour venir rajouter d'autres voix aux nôtres. Donc voilà, c'est notre prochain objectif. Et comme ces gens-là, on veut pouvoir les déplacer, les rémunérer et les intégrer vraiment au processus de Fin du Game, on a besoin de votre soutien. Donc voilà, c'est le prochain palier si vous voulez nous soutenir, et si vous le faites, merci beaucoup.
Et on en profite aussi pour vous dire de nous rejoindre sur le Discord, parce que vous pouvez en fait voter pour la prochaine blacklist.
Oui, c'est vrai qu'il y a
la période en ce moment, vous pourrez choisir des jeux.
C'est la période des blacklists, les seuls, tout ça, c'est la période blacklist.
Vous pouvez voter pour Silent Hill 2.
Rejoindre les 800 autres personnes qui ont décidé que ce sera ce jeu-là. Voilà, on va pouvoir passer à l'histoire de Dead Cells. Voilà, c'était l'histoire de Dead Cells. Non, très rapidement, on va pas s'éterniser là-dessus, parce que c'est turbo-zef, comme on dit dans le jargon, parce que tout simplement, ils en avaient pas prévu d'histoire à la base. C'est juste un prisonnier qui est enfermé.
Ils l'ont intégré à la toute fin. C'est littéralement, je crois, genre les 15 jours avant la sortie du jeu en version définitive, ils se sont dit, ah oui, ça y est, il faut mettre les salles avec de l'histoire.
Voilà.
Donc voilà, il y a un. Alors vraiment, pour le résumer.
Est-ce qu'on peut m'écrire un peu de lore là, vite fait?
Mais prenez deux, trois post-it. C'est quasiment ça. Même une partie du lore a été en fait outsourcé par les wikis qui interprétaient des trucs, et ils se sont dit, ah, c'est pas con ce qu'ils ont eu comme idée, on va l'ajouter.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Et donc en gros, il y a une île, il y a un truc qu'ils appellent le malaise dessus. Littéralement, ça a rendu les gens fous, le roi est devenu un peu fou, il faut aller le tuer. Voilà, ça y est. Bon, vous avez compris l'histoire de Dead Cells.
Et on est coincé dedans, quand on meurt,
on joue un prisonnier décapité. En fait, au début, il y avait une histoire un peu sombre où on était une sorte de petite cellule qu'on allait pouvoir envoyer, parce qu'il y a un des pouvoirs de Vanya qu'on débloque où tu envoies une sorte de petit blob vert dégueulasse un peu loin, et en fait au départ on était ça, on devait contrôler différents persos. Bon, ça a été très vite annulé, on ne contrôle qu'un seul personnage.
Et donc pas d'histoire, on peut passer, voilà, c'était bien, donc pas forcément de thématique, d'analyse narrative, on va pouvoir passer vraiment au jeu. C'est un Roguevania, donc déjà, c'est un roguelite, donc le principe, pas besoin vraiment de le rappeler, mais on le fait quand même parce que nous sommes sérieux. C'était Kill, Die, Learn, Repeat, c'était ça leur petit slogan quand le jeu sort. Et bon, c'est tout simplement ça, on va essayer de progresser de plus en plus loin pour essayer d'atteindre le boss final, mais entre temps, on va mourir quelques dizaines de fois, et à chaque fois, il faut recommencer du début à zéro, mais à zéro
tout à
entre
fait.
guillemets, et c'est ça le côté déjà
mais pas que
mais c'est déjà le côté roguelite, puisqu'il y a quand même une forme de progression permanente qui fonctionne notamment avec les Dead Cells, qui est donc une ressource qu'on va récolter en tuant des ennemis. Et cette ressource là, en fait, entre chaque niveau, on va croiser un personnage qui s'appelle le collecteur, et on va pouvoir dépenser ses cellules pour débloquer déjà des choses assez basiques comme avoir une deuxième fiole de potion, ce qui va permettre quand même d'aller beaucoup plus loin, de survivre plus longtemps, mais aussi plein de schémas d'armes, de pouvoirs différents qu'on pourra avoir en fait au prochain run.
Et ça vraiment, ça améliore la qualité de vie au fur et à mesure que vous jouez. C'est-à-dire que vous allez garder de plus en plus d'or quand vous mourrez. Oui. Vous allez garder une somme d'argent, donc vous allez partir avec un petit pécule. Vous allez avoir un choix alternatif. Enfin, tu vois, vous allez pas avoir une arme pourrie. Vous allez pas avoir le couteau et le bouclier de base. Mmh. Vous allez avoir des armes un peu sympas qui vont vous être proposées. Enfin, il y a vraiment tout un tas de choses qui sont débloquées. Il y a aussi, j'ai oublié le nom, mais tu sais, t'as des espèces d'améliorations passives.
Des mutations.
Les mutations, ouais, que tu vas débloquer. Tu les débloques au collecteur et après il y a un deuxième PNJ pour les activer.
Et tu vas quand même pouvoir en débloquer d'autres, voilà, chez l'autre gars.
Que de base, t'en as quand même pas mal. Tu choisis une mutation par niveau.
Et tu vas pouvoir en acheter d'autres qui seront du coup disponibles sur les runs de la suite. Donc c'est l'idée, en fait, c'est pas forcément de dépenser pour devenir bien plus puissant comme dans un Rogue Legacy ou un Hades par exemple, où tu vas vraiment énormément améliorer ton personnage. C'est pas vraiment ça. C'est plutôt s'ouvrir de nouvelles possibilités pour les prochaines runs et en général les possibilités qui sont aussi plus fortes qui vont te permettre d'aller plus loin.
Tu peux investir aussi pour améliorer le taux de drop d'objets légendaires, ce genre de choses. Donc c'est plus, en fait, tu vas trouver des meilleurs objets, c'est plutôt
ça. En fait, ils ont réussi à proposer vraiment des objectifs court terme, moyen terme, très long terme avec les améliorations comme ça, ce qui fait qu'en fonction du peu importe le temps que vous allez passer dans le jeu, vous allez avoir des trucs que vous allez débloquer, et si vous y passez très très longtemps, vous allez continuellement avoir des choses à débloquer parce qu'il y a toujours des trucs, en fait, qui vont rajouter au fur et à mesure, quoi.
Et bon, ça on connaît déjà, même déjà en 2018, comme on l'a dit, il y a déjà eu pas mal de roguelite et tout. C'est une formule, le côté méta progression, t'obtiens une sorte de monnaie que tu vas investir. Voilà, on connaît, mais il y a vraiment l'élément différenciant. On avait parlé du terme Rogue-vania, et le vania là dans le jeu, c'est que tu vas débloquer des sortes de compétences qui vont te permettre d'accéder à des endroits auxquels tu pouvais pas tant que t'avais pas la compétence. Il y a quoi faire pousser des lianes,
pousser une liane, il y a une téléportation,
ouais,
une espèce de petite bouboule là dont tu parlais,
le saut contre les murs, le wall jump qui permet du coup d'accéder à certains trucs,
de péter des trucs fragiles au sol aussi, comme ça tu peux descendre. Donc tu vas débloquer tout ça et ça te donne en fait des chemins alternatifs que tu vas débloquer.
Oui,
tout
parce que c'est ça qui est quand même important de faire comme nuance, c'est qu'on n'est pas sur un jeu où ces compétences-là, elles vont vraiment s'ajouter au gameplay de base. En fait, c'est des clés momentanées que vous pouvez utiliser à un endroit bien précis. Par exemple, le wall jump, c'est pas Hollow Knight, tu débloques ton wall jump et ça y est, tu peux wall jumper partout. Tu peux wall jumper qu'à l'endroit dans l'espèce de tutoriel.
Non, c'est ça. Tu peux wall jumper partout, mais c'est juste que du coup, ça va te donner accès qu'à certains endroits. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où tu peux pas y accéder sans ça, mais tu pourras utiliser le wall jump pour te déplacer dans les niveaux.
Oui, oui, bon, disons que ça c'est l'exemple où ça intègre au gameplay.
C'est marrant parce que alors, du coup je m'en souviens pas. Est-ce que j'ai eu le wall jump? C'est un truc qui arrivait tard ou pas?
Ouais, c'est un des derniers pouvoirs que tu chopes.
D'accord, ok. Mmh. Parce que j'ai pas le souvenir d'avoir
le
wall
jump. Sinon, les autres, tu vois, faire pousser la liane.
Oui, ça, tu l'utilises à un endroit, c'est contextuel. Donc en fait, j'ai pris le plus mauvais exemple. Mais c'est parce que du coup, je l'avais. Voilà, ok. Mais parce qu'effectivement, les autres, c'est des clés. Alors que là, tu vas pas avoir des pouvoirs qui vont vraiment compléter ta manière de jouer comme on l'aurait logiquement dans un Metroidvania.
Par exemple, la téléportation, c'est que quand t'es à côté de certains totems,
tu peux pas te téléporter où tu veux.
Et qui s'appelle Ryo, donc le Rogue-vania, et ils vont pas mal communiquer dessus avec, on l'a mis hein, sur le conducteur, il y a peu, entre parenthèses, plus Dark Souls.
Oui, bah, c'est la com à l'époque, le jeu il sort en 2018, Dark Souls 3 c'est 2016, il cartonne, enfin, bon, c'est un jeu un peu dur, il y a un pari, un bouclier où on peut parer les coups ennemis, c'est Dark Souls.
Ouais, bah ils le disent, hein, il y a des combats à la Dark Souls, tu peux faire une roulade.
Des Souls-lite
à l'époque, un truc comme ça, il faut le dire.
C'est évident, enfin tu vois, c'est.
Bah, on est à l'époque du c'est le Dark Souls Crash Bandicoot. Le Dark Souls des plateformeurs.
T'as des gros enjeux, tu vois, du point de vue communication, comment tu choisis, tu sais, les mots-clés qui vont être affichés sur ta page Steam. C'est ça qui va permettre de savoir dans quoi il va ressortir et tout. Et mettre. Il y en a un qui est similaire à Dark Souls, qui est extrêmement utilisé sur Steam. Et on comprend pourquoi, évidemment,
donc,
avec le temps.
Astuce, si là vous sortez un jeu indé, dites le Elden Ring des jeux indés.
Et qu'est-ce que ça voudrait dire à ça? Ce serait la vraie question. Voilà. Qu'est-ce que
c'est
le Elden
ça,
Ring
la Elden Ringisation.
La Elden Ringisation des jeux vidéo. Bon, pour revenir un peu plus au jeu, donc il y a cette formule là du roguelite assez classique, le côté vania qui va permettre vraiment de choisir des routes, parce que c'est ça, tu l'as un peu expliqué Maxime, qui va être intéressant dans le jeu, c'est que on va du coup pas faire vraiment à chaque fois le même, on va pas traverser les mêmes zones. L'idée c'est que ces nouveaux pouvoirs vont nous permettre de choisir des routes, et en plus des pouvoirs que tu vas trouver assez tard, tu vas pouvoir l'utiliser par exemple dans la première zone, et ça va encore développer
un énorme raccourci qui t'amène à un niveau qui est tout de suite beaucoup beaucoup plus dur, mais quand tu as suffisamment d'expérience, tu vas pouvoir compenser cette faiblesse très vite en trouvant un objet, et tu vas arriver beaucoup plus vite au boss suivant. Par exemple, tu vas pouvoir prendre un raccourci ou accéder à une zone avec une quête annexe, parce qu'il y a pas mal de petits contenus.
Y a des zones. En fait, limite, ça va, tu vas prendre plus de temps que si tu faisais la route de base, mais tu vas pouvoir récupérer des trucs intéressants.
Et sinon, tout simplement, ça varie les runs aussi, puisque tu as le choix entre différentes routes. Et bon, ça, c'est un des, pas forcément des défauts, mais un des challenges, on va dire, du roguelite, c'est vraiment de faire varier les runs. C'est pour ça qu'il y a autant d'armes, de taux aléatoires, de machin, pour que tu utilises, pour que les gens jouent pas toujours avec la même arme. Faut vraiment éviter la lassitude. Et tu vois, même un Hades aujourd'hui, je trouvais que un de ses défauts, c'est que tu te, entre guillemets, tu tapais toujours les mêmes niveaux dans le moment. Et ben en 2018, avec Dead Cells, tu dis ok, c'est cool, il y a vraiment, moi j'aime bien cette zone là, je la trouve jolie. Et au bout de 2, 3, 4 runs, tu dis bah tiens, cette fois je vais passer par celle là, ça change un petit peu l'aventure, quoi.
Ouais, ouais, du coup, c'est une bonne approche parce que ça permet effectivement de maintenir l'intérêt sur la durée et d'éviter un petit peu la lassitude, puisqu'en plus, il y a plein de petites récompenses. C'est-à-dire que comme tu vas croiser des ennemis qui ne sont que dans certaines zones, ils ont un petit taux de chance de faire apparaître une nouvelle arme qui va être débloquée au collecteur, et du coup, tu vas pouvoir plus tard l'utiliser, et donc, t'auras envie de l'essayer parce que c'est un nouveau jouet, donc t'as envie de jouer avec.
Et puis, même donc, esthétiquement, t'as des.
Bah, ouais,
les fonds des zones, le petit parallaxe derrière, enfin, il y a des jolies choses. Et puis, même en termes de level design, ils ont donner des vraies identités. Moi, je me souviens surtout des remparts, notamment. Tu vois, tu sais, il y a vraiment une tour, à chaque fois tu descends, après tu remontes et tu fais des tours comme ça. Et quand tu vas aller, je sais pas, dans le charnier ou dans les égouts, tu vas pas du tout avoir non seulement la atmosphère esthétique, mais aussi ludique, parce que voilà, le labyrinthe est pas agencé de la même façon. Donc voilà, ça leur a permis quand même ça permet de travailler des zones différentes, parce qu'il y a quand même une vraie partie plateforme, en fait. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, même dans le plan, là, on l'a pas trop mentionné, mais c'est quand même une petite composante, là il y a même des endroits, il y a des petits pièges, il y a des bouboules qui tournent en mode château de Bowser, et puis des trucs qui sont complètement hérités de Castlevania, parce que Castlevania c'était aussi de la plateforme. Mais donc le jeu, pour faire des runs, c'est typique des roguelites, on va essayer d'avoir de créer des synergies. L'objectif, c'est de faire le maximum de dégâts, d'être le plus puissant possible. Il y a trois stats principale: brutalité, tactique et survie. En fait, c'est les armes qu'on va pouvoir récupérer, elles sont affiliées à une de ces
c'est ça. Donc
il y a des bigous,
t'as les bigous, effectivement, c'est ça. Et l'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un truc qui a mis très longtemps, ça a pas eu ce nom là ça a mis très longtemps à se développer, parce que justement, trois stats, on se retrouvait à avoir souvent le problème de on investit plus que dans une, et donc ils ont cherché à trouver un bon système pour pousser les gens à investir dans des stats qui sont moins importante pour eux. Donc ils jouent notamment sur la quantité de vie qu'on va gagner. Plus tu investis dans une stat, moins elle va augmenter ta barre de vie max. Et par exemple, si tu as mis 6 ou 7 points que dans le rouge, donc la brutalité, et que d'un coup tu prends un truc vert en survie, boum, tu vas gagner genre 100% ou
80% de pourcents, ce qui va faire
tu vas gagner une énorme barre de vie d'un coup, ce qui va pas mal t'aider en termes de bonus, quoi.
Et du coup, ce qui est très important, je trouve, avec ça, c'est que ça te pousse à ne pas faire que du rouge, que du violet. Tu vas avoir investi un peu dans une autre couleur que l'arme que t'as. Si tu voulais augmenter la puissance de l'arme que t'as, le risque, c'était que tu fasses que ça, et que si tu tombes sur une arme d'une autre couleur, tu dises non, parce que j'ai rien investi dedans. Mais avec le fait que ça te rende beaucoup plus de vie de pas te spécialiser dans un truc, fait qu'en général, tu vas atteindre un certain équilibre. T'as peut-être investi, je sais pas, on va dire la moitié dans un et l'autre moitié répartie dans les deux autres, ce qui fait que t'es plus tenté de changer d'arme, en fait, puisque t'as déjà investi quelques points de stats dedans.
Et il joue bien aussi sur le système de statistiques des armes, ce qui fait que quand tu trouves une nouvelle arme dans une nouvelle zone, en fait, ses dégâts de base seront en général supérieurs ou au moins équivalents à ton arme que t'as, même si c'est pas la bonne couleur, entre guillemets, ce qui fait que tu as pas l'impression d'être puni de changer d'arme. Tu vas juste dire, la prochaine fois, je vais investir là-dedans, quoi.
Sachant que de base, t'as quand même deux armes qui sont assignées à deux boutons, X et Y, ce qui fait que, en général, tu peux avoir par exemple une arme corps à corps et une arme distance, et tu vas alterner entre les deux, parce que c'est quand même un jeu où t'as plein d'ennemis différents avec des situations différentes, t'as besoin quand même d'avoir des trucs à distance. Et puis t'as aussi les deux autres slots qui sont assignés à des pièges ou des pouvoirs, je sais pas, l'espèce de Kamehameha qui gèle, les grenades, les petites tourelles, enfin il y a plein d'objets, des pièges,
y en a des tonnes,
et ça, c'est vraiment hyper important de s'en servir, parce que c'est là-dessus où tu peux vraiment faire le chacal, et surtout sur les boss où faut vraiment vider leur barre de vie. En fait, je me souviens que moi, quand je commençais à jouer, j'utilisais que mes armes un peu principales, et c'était une galère, alors que dès que tu commences à foutre des pièges un peu partout, alors là, les boss, ça y est, tu les passes tranquille.
Et les synergies, donc, elles viennent aussi t'as des états, de feu, de glace, de poison, et t'en as, ils vont te dire, par exemple, tu utilises le feu contre un ennemi gelé, ça lui fait plus de dégâts, donc tu dis, c'est bien que j'ai une grenade qui gèle et qui ira bien avec mon arc de feu, par exemple. Donc, t'as ce genre de synergie, ou sinon, t'as aussi des synergies en termes de gameplay, par exemple, le piège à loup avec une arme de distance, et quand t'as un arme, un ennemi qui se bat en arme de mêlée, tu l'as piégé dans ton piège à loup, toi t'es à 5 mètres de lui, il peut pas te taper, il est immobilisé, bah tu lui tires dessus aux flèches, ça va pas mal ensemble.
Je me souviens que ma plus belle run, c'était littéralement un truc où je crois que je ne me battais pas, j'envoyais juste mes trucs, et tu sais, ça vidait les salles tout seul, tu sais, il y avait des pièges, ça tapait tout seul, j'étais là, j'étais bah d'accord, ouais, très bien.
Moi, t'avais une combinaison qui marchait bien au début où t'avais donc le piège magnétique qui attire tous les ennemis au même point, et après tu mettais une espèce de scie sauteuse là qui faisait circulaire, qui les faisait saigner très vite. Et après t'avais des synergies, il y avait des effets de chaîne, tu sais, où genre quand les ennemis meurent, ils font apparaître des espèces de petits blobs là avec des petits, tu sais, il y a des petits vers avec un petit nœud papillon avec son tout mignon, mais qui font plein de dégâts et ça en faisait apparaître partout. Et au bout d'un moment, tu le jetais et ça faisait réaction en chaîne et c'est voilà. Et en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que dans tous les roguelikes, pour les gens qui jouent beaucoup à Isaac, vous le savez, à un moment donné, il y a ce côté où on tombe dans des builds complètement craqués. C'est-à-dire vraiment, il y a ce délire de, il faut que le jeu nous laisse nous sentir surpuissants. Mmh. Et ça, là-dessus, Dead Cells, je trouve qu'ils y arrivent très bien. Ils ont vraiment réussi à bien donner des bonnes combinaisons. Ou tu sais, des fois, vous devez le voir, c'était des sortes d'explosions de gel ou de sang qui se font autour des ennemis qui meurent. Et en fait, bah, d'un coup, tu te mets à tuer 20 ennemis alors que t'as juste jeté une grenade, quoi. Mmh. Donc c'est très très plaisant cette sensation-là.
Et où tu vas découvrir des gameplays, par exemple, il y a le pied spartiate, je sais plus comment ils appellent ça, mais la référence à 300 où tu donnes le gros coup de pied latéral, où tu pousses l'ennemi en arrière, et je crois que c'est peut-être des dégâts supplémentaires s'il tape un mur ou quoi, enfin, et tu peux dire, ok, bah, je tente cette arme, elle a des stats, ok, j'ai investi, et en fait, tu découvres un build, tu découvres un truc, tu découvres une façon de jouer, tu disais, je vais faire une petite run un peu entre guillemets poubelle, je m'amuse un peu, et puis tu vois que t'es arrivé super loin, en fait. Moi, j'avais eu ça avec le bouclier, je jouais pas du tout avec le bouclier. Une fois, je me dis, tiens, je vais tenter, lui, il a un effet sympa, quand tu fais un pari, je sais plus quoi, et j'ai fini le jeu. En fait, c'est la première fois que j'avais battu le boss, j'avais tenté une run bouclier, et en fait, j'ai gagné grâce à ça.
Ça, très fort, et ça montre que c'est vraiment réussi, tu vois, qu'ils ont réussi leur pari. En fait, s'ils arrivent à te faire changer d'arme et que tu arrives à prendre du plaisir et de dire oh, putain, en plus, je peux faire des choses, et tu découvres en fait tout un autre pan du jeu que t'avais pas forcément anticipé, puisque tu ne jouais pas forcément avec cette arme, je trouve que ça montre là que c'est assez réussi. Et des armes, il y en a quand même une tétrachée, c'est l'école vraiment, Isaac, etc. Enfin, peut-être pas autant qu'Isaac, parce que je pense que ça, c'est un peu craqué, mais ouais, il y en a quand même beaucoup, et beaucoup de travail qui a été fait là-dessus.
Franchement, je sais pas combien il y en a, j'ai pas compté, mais je pense que tu vas dire une centaine, je pense pas que je sois si déconnant, vraiment. Et il y en a ils ont réussi à donner beaucoup de diversité, parce que tu vas avoir des armes de pur corps à corps, très très, avec une portée très courte, tu vas avoir des gros marteaux très lents, avec, il y a des armes avec des timings, il y a des armes avec des charges, il y a des armes genre des fouets avec des attaques à distance. Enfin, ils ont réussi à vraiment taper très très large. Il y a des armes incroyables comme ce fameux nunchaku avec deux poils à frire qui était une bague. T'avais une baguette, tu pouvais évidemment te battre avec une baguette, parce que voilà. Tu vois, enfin, ils ont réussi à donner une telle variété, une telle diversité, qu'on retrouve ce kiff de je recommence une nouvelle partie et je sais pas ce qui va se passer, et ça va être drôle de justement tester et d'expérimenter. Ils ont réussi à, tu vois, toucher ce sweet spot de te dire, ben, teste quelque chose de nouveau. Tu vois, ça c'est toujours un truc qui est difficile à faire, et c'est cool quand ils y arrivent.
Et puis, bah, ce qui fait aussi vraiment la différence sur Dead Cells, on parlait un peu de la maturité, de l'expérience des gens de Motion Twin pour faire des jeux vidéo, c'est qu'en fait il y a un polish qui est absolument incroyable. Sébastien Bénard, lui, le dit qu'il aime bien polish les trucs, il passe beaucoup de temps à faire ça, et c'est vrai que ça se sent. C'est un jeu où tout est vraiment clean. Alors déjà, cette conférence de Sébastien qui est vachement intéressante, surtout les petits trucs un peu cachés qui sont là en fait pour nous aider à jouer, où il y a une espèce de main, la petite main du développeur comme ça qui nous porte sans qu'on le sente, avec notamment par exemple le fameux, ce qu'on appelle le Coyote Time, donc ce moment où en fait tu vas avant de sauter d'une plateforme, si tu dépasses un petit peu de la plateforme, le jeu va quand même t'autoriser, va quand même valider le saut et faire que c'est validé. Et si t'arrives un petit peu trop loin du prochain rebord, hop, ils te font une petite téléportation pour que t'arrives quand même sur le rebord. Donc il y a ça, et en fait il y a plein d'autres aides, le fait que le perso il peut grimper un peu sur les murs pour monter un peu plus haut, il va monter lui-même les marches, il y a plein de choses en fait qui sont là pour nous aider et fluidifier la course du personnage.
Je crois qu'il monte dans la conf genre un extrait vidéo où il n'y a pas toutes ces aides.
Exactement.
Et tu vois, bon, la personne galère un peu, tu tombes, tu te raccroches pas sur la plateforme, tu rates. Mais en fait, c'est toujours, tu rates d'un petit millimètre, donc t'as cette frustration du, on sait que tu voulais faire ça, t'as pas raté de beaucoup, et ben t'aurais dû tomber, mais en fait paf, on te téléporte juste un petit millimètre à droite, tu vas même pas t'en rendre compte parce que vraiment ça se voit quasiment pas, et t'as l'impression, voilà, de cette impression de fluidité, parce que la difficulté du jeu de toute façon elle est pas vraiment là, elle est pas sur le platforming, et de toute façon ça t'aide juste un tout petit peu, donc et plein de jeux font ça, en fait c'est juste qu'on s'en rend pas compte.
Et c'est ça qui est intéressant de noter, c'est qu'en gros ils ont bien identifié ce qui est vraiment le cœur de leur gameplay, c'est-à-dire le core gameplay c'est le combat, c'est pas la plateforme, et donc du du coup, la plateforme, ils font en sorte que ça soit pas chiant et que ça soit pas frustrant. Et ça, c'est pas tout le monde
mais
qui arrive à
avoir.
Mais
même sur le combat, tu vois, il y a des vrais aides parce que tu vois, il y a une sorte d'auto-aim déjà quand si vous là, j'ai rejoué un peu au jeu pour l'épisode et vraiment, tu vois, quand tu lances des objets, tu vois que ça vise les petites chauves-souris là qui essaient de t'attaquer. Ouais. Bah, tu vois qu'il y a vraiment de l'auto-aim. T'as pas besoin de viser, ça va chercher vers eux. Et il y a aussi même un truc que lui il explique, c'est que même par exemple, tu vas te tromper de côté, par exemple, parce qu'on est en 2D, donc si tu tapes vers la gauche et que l'ennemi est vers la droite, en fait, le jeu il fait ah, c'est pas grave, il te tourne automatiquement et tu vas quand même taper du bon côté, alors qu'en termes d'input, t'auras pas rentré la bonne combinaison. Donc le jeu comme ça va venir un peu tricher, mais en fait, ce qu'il explique, c'est d'essayer de comprendre l'intention des joueurs et des joueuses, de dire en fait, on va te donner le résultat que tu voulais faire et qu'on pense que tu voulais faire, mais tu t'es un peu planté dans les inputs, mais parce que c'est pas grave, parce que c'est pas ça l'enjeu. Et même si l'action c'est un peu difficile, c'est quand même plutôt la prise de décision, etc., bah qui va primer en fait.
Vraiment, la difficulté du jeu, ça va plus être, parce que comme dans la plupart des roguelites, t'as très peu d'options pour récupérer ta vie, donc t'as une potion et éventuellement une mutation qui te redonne genre.
De temps en temps, tu trouves des petits morceaux de poulet,
oui,
des trucs comme ça.
Mais tu peux acheter chez un marchand, mais c'est ça, c'est que la vie c'est un peu le nerf de la guerre.
Tout à fait,
Et en fait, il faut juste éviter de se faire toucher le plus possible. Ça paraît idiot, dit comme ça, mais ça va se jouer à ça une run. C'est juste que tu vas connaître un minimum le timing, enfin les patterns des ennemis, les reconnaître dans le bordel ambiant entre tes armes qui font des flashs, les pièges que t'as posés, les petits vers à nœuds papillons. Il faut pas perdre d'œil en fait de vue l'ennemi qui va te jeter une grenade, juste une flèche, parce que en fait c'est à ça que tu te fais gratter en général. C'est vraiment le petit. Oui, t'aurais pu l'éviter, mais non, tu te l'es pris parce que t'as pas fait attention. C'est plus là-dessus, c'est de pas perdre de vue donc l'ennemi, et donc ça se joue pas. Il était dans ton dos, fallait avoir le timing
précis
sur la plateforme et tout. Encore une fois,
c'est de l'attention, mais aussi même vraiment de la prise de décision, parce qu'il y a plein de moments où c'est la meilleure solution, c'est juste de dire attends, je me barre un petit peu, je vous laisse faire un peu votre truc, et après je reviens taper. Donc c'est enfin moi, la plupart des moments où je fais de la merde, c'est j'ai pas pris, je me suis dit j'ai été un peu coquille, tu vois, et je suis rentré dans le truc alors en fait fallait pas, tu vois. Et c'est pas une question de j'ai mal joué, c'est juste fallait pas faire ça, quoi. Et donc c'est vrai que le jeu ils veulent plus te punir là-dessus, et en général dans les roguelites c'est cet apprentissage là des bonnes décisions à prendre au bon moment qui vont te permettre de progresser. Et puis encore, c'est vrai que on parlait un peu des souls, là le jeu est vachement plus gentil sur les cancels, tu peux annuler aussi, tu peux tout annuler.
Vraiment.
Alors que dans les souls, bon bah quand tu fais une attaque chargée, l'attaque chargée elle va sortir, tu vas pas faire ta roulade en plein milieu, voilà, le jeu ne t'autorise pas, alors que là voilà, il est quand même beaucoup plus gentil.
Puis tu fais des roulades de 5 mètres, tu passes derrière l'ennemi, t'as les frames d'invincibilité qui sont très
et tu le vois, c'est très rigolo, parce que justement sur le côté tu vois, la main du développeur, tu sais, genre tu fais ta roulade et ta roulade se finit dans l'ennemi, et donc tu devrais te retrouver devant et tu vois le bonhomme qui il se déplace, et il arrive pile derrière comme il faut, et en plus il s'est retourné, il est sympa.
Il y a un petit côté aimanté, tu vois, enfin bref, c'est,
et tu le sens quand tu joues, mais tu t'en fous en fait, parce que c'est cool,
parce que c'est ce que tu voulais faire,
et tu le sens. Et je pense que tu vois, c'est tu le sens quand t'as quand même un peu cet œil
à mon avis, quand
tu es
dans le flow, tu fais pas gaffe.
Et puis pour la majorité des gens qui jouent, enfin il y a personne qui va te dire oui, ça se voit que le jeu est triche, bien sûr que non, tu vois.
Mais parce que en fait c'est ça un échec, c'est que tu voulais faire un truc et juste l'exécution a pas été bonne, mais tu le sais pas tant que t'as pas raté. Parfois tu le sens, tu dis ah je vais être trop court, ça va être trop... mais il y a plein de fois en fait tu vas te prendre un coup, tu fais ah mince, je pensais que j'avais le bon timing, je pensais que machin, le jeu il fait si t'as le bon timing, t'inquiète. Et ton cerveau il a pas vu, quoi.
Mais par contre quand tu prends la mauvaise décision, le jeu il fait non, c'était pas ça qu'il fallait faire, effectivement.
Et donc à l'inverse, on peut effectivement la jouer entre guillemets cool, mais ils ont aussi pensé le jeu à l'inverse, avec le côté vous pouvez jouer comme des bourrins et être ultra agressif et viser même le speedrun, puisque le jeu a beaucoup de petites mécaniques un peu pas cachées, mais un petit peu comme ça discrètes, sur la vitesse d'exécution. C'est-à-dire que par exemple quand on tue des ennemis sans se faire toucher, on va débloquer au bout d'un moment un bonus de vitesse de déplacement qui va se réinitialiser à chaque fois qu'on tue un ennemi. Et typiquement il y a plein de trucs qui sont là pour nous faciliter la vie et se déplacer super vite. Genre on peut casser les portes avec des roulades, au début on pouvait pas, c'est un truc qui a été rajouté, c'est une des mises à jour, tu vois, de feedback des joueurs. Et donc
pendant l'early access, parce que nous on a tous joué avec la version finale, on n'a pas joué à l'early access.
Et donc les ennemis au passage en plus vont prendre des dégâts, ils vont être stun, ce qui fait que tu peux tracer vraiment à travers les niveaux. Et il y a par exemple à la fin de chaque niveau, t'as une petite porte qui te dit bah voilà, si t'es arrivé ici en moins de 3 minutes, et ben hop, t'as un bonus spécial qui compense tous ces ennemis que t'as pas tués en allant très très vite. Donc le jeu est vraiment bien foutu à ce niveau-là, parce qu'il te laisse soit faire des runs très longues. Dead Cells, tu peux faire des runs jusqu'à 45 minutes, 1 heure, ce qui est très
long. Oui, c'est assez long.
Moi, c'est vraiment dans la moyenne haute par rapport à des Hades ou d'autres. Mais à l'inverse, quand tu joues très très vite, et ben tu peux effectivement tomber à 15-20 minutes et faire des runs. Et regarder des speedruns de Dead Cells, vous allez voir, c'est génial.
Et on en revient en fait à cette variété, à ce choix où tu as une run, tu vas dire bah celle-là, je vais foncer, tu vois, je vais me dépêcher pour avoir la petite porte début, parce que si tu veux entre guillemets bien jouer, il faut plutôt faire une run longue où tu vas tout explorer, tu vas amasser de l'or, tu vas tuer plus d'ennemis et donc augmenter tes chances d'avoir des drops, de schémas, d'argent, etc. Mais là tu dis bah cette run-là, je fonce, voilà, je vais avoir mes trucs, et c'est quand même un minimum équilibré, il va te récompenser pour que tu sois pas non plus trop à la traîne et que tu fasses plus jamais ça parce que tu vas mourir au deuxième ou au troisième niveau.
Il y a un autre truc intéressant aussi, c'est dans le rythme aussi qu'ils ont imposé, c'est toi un peu Max qui l'avait tiqué sur ces fameux téléporteurs là dans les niveaux.
Bah comme dit tout à l'heure, c'est qu'une bonne run entre guillemets, tu vas tout explorer, et Dead Cells il a quand même des souterrains, des petites salles un peu cachées où tu peux.
Il y a un côté un peu métro, enfin tu vois Castlevania, tu vois, il y a un côté un peu labyrinthique.
Ouais. Et il y a des branches qui parfois peuvent aller un petit peu loin, qui est souvent en sous-sol, mais eux ils ont vraiment bombardé de téléporteurs vraiment toutes les toutes les minutes, tu tombes même peut-être 30 secondes, bah, tu tombes sur un téléporteur
ou un changement de chemin ou une bifurcation, ils mettent un téléporteur.
Et dès que t'as une fin de branche, t'as un téléporteur, comme ça hop tu peux revenir quand tu veux, et c'est ça interrompt pas le flow du jeu. T'as pas, en fait tu dis pas j'ai la flemme d'aller là-bas parce que je sais que je vais devoir me taper le chemin à monter. Non, il y aura un téléporteur, tu le sais très bien, il y en a partout, t'inquiète pas, tu reviens. Donc
il y a pas ce côté backtracking, le côté backtracking du Vania, ça ils ont fait c'est téléporteur et tu reviens.
Tu peux avoir dans certains roguelites en vrai, tu as un bout, un chemin où c'était juste parce que Nuclear Throne par exemple, tu sais pas forcément quelle est la bonne route, et bon bah c'était pas celle-là, et ben je reviens, et
ou typiquement tu sais, on pensait à Returnal, c'est un jeu dans lequel tu passais beaucoup de temps aussi à explorer des trucs, tu vois beaucoup plus qu'à
ils en avaient mis des téléporteurs,
il y a des téléporteurs mais tu vois il y en a un ou deux dans la zone, et c'est pas genre systématique comme c'est dans Dead Cells, et c'est vrai que ça permet de conserver un rythme,
c'est bien pour l'exploration, et puis ça te permet aussi du coup quand même de revenir de temps en temps, parce que t'es dans un niveau immense, tu vois, je sais pas, genre le niveau avec les pêcheurs là qui est très très grand,
tu peux laisser de la bouffe, t'as des bonus,
t'as dépassé de l'argent, et donc du coup tiens bah il y avait le marchand à cet endroit là et qui en une seconde, et tu repars et hop tu réenchaînes, et t'as pas vraiment perdu de temps entre guillemets,
parce que je me souviens de certains allers-retours parce que il y avait de la vie qui était laissée j'étais full life à tel moment, on l'a dit, la vie c'est souvent le nerf de la guerre, t'as laissé un truc de vie vers le début du jeu, et ben tu te retapes tout le chemin pour faire ça.
Et tout ça pour dire qu'en fait quand on regarde vraiment Dead Cells et tous les petits choix de mécanique qu'ils ont fait, ils ont vraiment tout fait pour donner un jeu qui te donne vraiment le plaisir de progresser rapidement, d'être sur de l'action intense et vraiment d'être tout le temps dans un rythme soutenu. Et c'est ça l'expérience Dead Cells, c'est un jeu qui est fatigant entre guillemets, tu vois, tu joues, tu sors du run, tu fais bon bah c'était quand même, tu prends pas trop ton temps dans le jeu, mais parce qu'encore une fois bah tout est designé pour que tu ailles vite, que tu progresses vite, que tu fasses aussi un peu ces erreurs qui sont un peu dans la précipitation, mais aussi que t'aies l'impression de parfois blast through, de vraiment traverser les niveaux comme ça en toute puissance, et c'est ça qui est kiffant. Et en fait tout ça est tellement assez impeccablement implémenté que ça a donné un jeu qui est en fait devenu la référence de son genre au moment où il est sorti, quoi. Moi c'est vrai qu'avec le recul on a mis c'est la nouvelle ref jusqu'à Hades, parce que Hades est arrivé. Moi c'est vrai que je préfère l'équilibre d'Hades sur la progression, parce que tu sais tu fais plus progresser ton personnage. Il y a un côté dans Dead Cells où on revient un peu plus à zéro, et moi au bout d'un moment tu sais ça me motive moins parce que j'ai moins cette progression là, alors qu'Hades m'en donne un peu plus, et pour moi c'était le bon équilibre. Mais par contre je trouve que c'est tellement impeccable, tu vois, Dead Cells c'est vraiment bien foutu.
En fait, dans Dead Cells assez tôt tu vois qu'il y a des choses dans lesquelles faut investir beaucoup de cellules, je crois la deuxième potion c'est 500 cellules, et au début si tu galères un peu, par exemple que le premier boss c'est on va dire un challenge et que tu vas mettre 5, 10, peut-être 20, 50 runs en fonction des gens, les 500 cellules tu vas mettre beaucoup de temps avant de les avoir, donc c'est vrai qu'il y a un côté long terme qui est peut-être beaucoup plus loin que dans un Hades comme tu l'as dit, où tu vas débloquer beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement,
une chose qui objectivement te rend plus forte. On peut aller méga loin, parce qu'après une fois que t'as fini le jeu une première fois, tu débloques les cellules de boss du coup te rajoutent des modes de difficulté façon Diablo, où tu peux en avoir je crois jusqu'à 10, un truc comme ça, enfin c'est débile, moi je crois qu'à 3 ou 4 déjà je meurs instantanément, et donc le jeu potentiellement tu peux y passer,
mais ça c'est sûr que sur le endgame après là c'est une autre histoire,
mais ça c'est quand t'es déjà converti quoi.
C'est ça en fait, t'es déjà rentré dans le jeu, mais tu vois je le trouve moins accueillant que Hades. Je pense que Hades c'était plus fédérateur,
on avait dit dans Hades, parce que la progression intégrée à l'histoire de manière comme ça très naturelle, ça cassait justement cette impression de recommencer tout le temps,
et puis le fait que en fait tu à chaque fois que tu recommences une nouvelle run, tu es statistiquement plus puissant que la précédente, ce qui n'est pas vraiment le cas dans Dead Cells. Il y a plein de fois où tu ne l'es pas.
Oui, disons que oui, mais tu vas quand même en général, tu auras au moins investi dans un truc qui te rend plus fort, mais c'est juste beaucoup plus long.
Et encore, c'est des schémas, des trucs. Enfin, tu peux faire plein. En fait, dans Hades, j'ai jamais la sensation d'avoir fait des runs poubelles parce que j'avais toujours truc. Alors que dans Dead Cells, j'avais la sensation de faire des runs poubelles. Et ça, c'est quelque chose en fait. Après, moi, les roguelites, tu vois, j'en ai des trucs action, autant des tactiques, j'en ai fini pas mal, mais action, j'ai toujours du mal parce que au bout d'un moment de recommencer, etc., c'est l'intensité de l'action me fatigue plus que, je sais pas, Into the Breach ou un Darkest Dungeon ou un Slay the Spire où je peux y jouer des heures sans problème. Quoi.
Mais là, pour y avoir rejoint un peu, je trouve que ça marche toujours cet élément différenciant d'avoir les chemins alternatifs, le côté, enfin vraiment, tu sens que c'est vraiment gameplay avant tout. Et en y rejoignant, je me dis oui, je suis pas étonné que ça ait été vraiment la ref de 2018. Et c'est pas, tu vois, je vais pas dire qu'Hades est mieux, parce qu'on l'a dit, Hades aujourd'hui c'est la nouvelle référence, c'est la référence la plus récente du roguelite. Mais en fait, Hades il est surtout tapé dans un angle, enfin dans ce qui restait en fait à vraiment exploiter jusque là dans le roguelite, qui était le côté histoire. Tu l'avais mentionné, Benoît, t'as vraiment une grosse histoire, plein de persos, plein de lignes de dialogue qui vont se débloquer, et c'est ça qui a fait la richesse d'Hades. Un truc qui avait complètement délaissé Dead Cells, et pour le meilleur, hein, pour vraiment servir ce qu'ils ont fait, où eux c'était vraiment, il fallait des variétés de runs, les chemins alternatifs, et il le fait très bien. Et voilà, c'est sans
en fait,
mettre
dos à dos. Ça a permis à parler à un public encore plus large. C'est-à-dire que les gens qui kiffent l'action Dead Cells, ils vont globalement quand même se retrouver dans Hades. Mais t'as aussi un autre public qui va, bah, qui va s'y retrouver aussi avec tout l'histoire. Et puis, t'avais aussi ce fameux God Mode dans Hades. Et d'ailleurs, qui a été ajouté très récemment. Enfin, il y a un mode assist qui vient d'arriver dans Dead Cells, mais là, très très récemment, avec une dernière mise à jour. Et bah, justement, on peut parler un petit peu de ça, parce que juste Dead Cells, ça arrive en 2018. Ouais, ça met tout le monde d'accord. Mais c'est un jeu qui va continuer à avoir une vie vraiment assez longue et surtout assez riche, avec énormément d'ajouts. On a noté quoi 22 mises à jour majeures depuis la sortie.
Ouais, c'est ça. 22 mises à jour depuis la 1.0, donc c'est quand même costaud. Sachant que ça, à l'intérieur, c'est du contenu régulier, des nouveaux niveaux, des nouveaux boss, des nouveaux ennemis, des nouveaux costumes, des nouvelles armes. Il y a aussi sur la durée de vie tout un tas de trucs. Il y a les missions quotidiennes. Tu vois, ils avaient fait tout un système qui était assez rigolo, où en gros, Slay the Spire a un système similaire. En fait, ils ont créé un code. Alors ça j'en avais discuté avec Sébastien Bénard, il m'avait montré comment ça fonctionne. En gros, la date du jour génère une seed, donc une série de chiffres, tu vois, qui va déterminer la génération du niveau, et ça leur permet comme ça à l'infini, tu vois, on sait que le 25 janvier 3030, il y aura un niveau de Dead Cells qui pourrait potentiellement exister si la civilisation est toujours là. Et donc ça leur permet,
avec des conditions de récompense,
avec des conditions de référence qui vont changer, et pendant 24 heures, les gens vont devoir faire le meilleur score possible, aller le plus vite possible, ne pas se faire toucher, aller le plus vite possible, etc. Enfin, il y a plein de conditions pour jouer sur le score, et ça permet de renouveler encore une fois le jeu, et de faire encore découvrir une autre façon de jouer, avec vraiment une approche très très score, très arcade à l'ancienne, qui fonctionne très très bien.
Et puis il y a eu dans un premier temps des DLC donc gratuits, il y en a un qui rajoutait des zones, des ennemis, des contenus. Il y a eu aussi le Everyone Is Here, ref à Super Smash Bros Ultimate, c'était un peu leur cash line, et ils ont fait une espèce entre guillemets de Super Smash Bros des jeux indés, où tu retrouves, donc c'est pas du compétitif, mais il y a le perso de Shovel Knight, parce qu'il y en a eu deux en tout, mais il y a eu Hyper Light Drifter,
c'était des skins pour le prisonnier, et ça
c'est
va
soit
ressembler
des skins, soit des
armes aussi.
Des armes particulières, tu vas avoir des soit des armes soit des skins, mais en gros tu vas avoir une espèce de petit featuring, comme on aurait dans un Fortnite entre guillemets,
tout à fait, mais
façon jeu indé, c'est-à-dire que c'est une sorte de Avengers. Moi je vois plus ça comme les Avengers que Smash Bros.
C'est vrai que Fortnite a vachement popularisé ça, et assez récemment il y avait Fall Guys aussi qui avait complètement
surfé là-dessus à fond.
Mais là c'est vrai que ils ont vraiment joué ce truc-là d'être un peu un des champions comme ça du jeu indé, d'essayer de fédérer un peu autour d'eux. Et voilà, il y avait Hollow Knight, il y avait le mec, on parlait de Blasphemous là. Tu peux récupérer effectivement un skin.
Le premier Everyone Is Here, c'était vraiment plein de roguelike. Bon, il y avait juste le mec de Hyper Light Drifter, mais je sais qu'il y avait Curse of the Dead God, il y avait Skull.
Spelunky aussi.
Il y avait Skull. J'ai oublié son nom là, je vous l'avais dit.
Skull and Bone. Tu disais le Dead Cells coréen.
Tu joues un petit bonhomme là qui jette sa tête en fait sur les ennemis pour les voler, enfin bref, j'ai oublié son nom, mais voilà, c'était des trucs comme ça. Et là récemment il y en a eu un autre l'année dernière en fait, en 2022,
et ça c'est les updates gratuites. Mais il y a eu aussi 3 DLC payants qui rajoutent zone, boss, ennemis, etc. Mais ça s'est fait vraiment sur la durée. Je crois que le premier gros DLC gratuit c'est genre 2019, donc un an après la sortie, et là les DLC payants ça s'est fait jusqu'en 2022, ouais. Je crois, et on l'a dit, il va y avoir Castlevania là cette année.
Oui, c'est cette année.
C'est prévu pour cette année.
En 2023.
Pour tout, celle qui est toujours là. Il y a plus personne sur l'humanité. Maintenant, c'est les grands scolopendres qui jouent à
parce que les niveaux sont toujours générés aléatoirement. Et en fait, la civilisation qui arrivait après, tu vois, en fait, ils jouent à Dead Cells.
C'est ça, en fait, le dernier émanescence de l'humanité, c'est Dead Cells. Ils arrivent à jouer à ça. Très bien. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que finalement, c'est pas... Quand on regarde un petit peu les rogues qui sont sortis un peu autour de Dead Cells dans ces années 2016-2017, la fameuse deuxième vague des roguelites, on constate que c'est un des rares qui a décidé vraiment de perdurer comme ça dans le temps et de rester sur celui-ci, parce que toutes ces références, c'est passé au deuxième épisode. Il y a eu Rogue Legacy 2 qui est sorti, il y a eu Darkest Dungeon 2 qui est sorti, il y a Hades 2,
Risk of Rain 2.
Effectivement, il y a tous ces champions un peu du roguelite, ils ont tous fait le choix d'aller sur OK, on va vers un deuxième épisode, mais pour Dead Cells, c'est pas forcément ce choix-là qui a été fait.
Ils ont fait un choix qu'on n'a jamais vu dans l'histoire des jeux vidéo, puisque du coup, ils ont. En fait, il faut savoir qu'à la sortie de Dead Cells, le succès du jeu est tel que l'équipe de Motion Twin se retrouve avec une question assez difficile du. Qu'est-ce qu'on fait après ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Je vais faire de tout cet oseille. Moi, c'était ça la vraie question.
Et également, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a sorti Dead Cells ? Et ils se sont posé la question pendant très longtemps. Pour en avoir discuté avec des membres et des anciens membres de Motion Twin, ils n'ont jamais réussi réellement à trouver une idée fédératrice sur laquelle se motiver. Et donc, ce qu'ils ont fini par décider de faire, c'est de créer un autre studio complet et pour se.
Qui sera dédié.
Délégué, complètement la production. Et ils ont choisi d'appeler. Ça avec un humour un peu étrange Evil Empire, parce que du coup au départ on était sur une société communiste qui décide de créer une boîte de 50 personnes
qui
gagnent beaucoup moins d'argent
c'est ça,
puisqu'ils bossent pour eux en fait.
Exactement, qui bossent littéralement pour eux et qui bossent vraiment sur la production
de tous ces nouveaux contenus
de Dead Cells. Et tu le disais on est allé voir sur la roadmap, là ils nous disent que 2023 sera la meilleure année pour Dead Cells, donc vraiment il y a cette idée que le jeu
traitement jeu service
littéralement
c'est du
vraiment.
Destiny, Warframe, tu as
ils
des gros contenus.
Il n'y a pas de season pass dessus,
Parce qu'autant quelques DLC ou extensions, ça on l'avait déjà vu, mais comme on l'a dit, là on est 5 ans, enfin ça va faire 2023, ce sera la 5e année en tout cas de la 1.0, et la meilleure année du jeu, ils disent comme tu dis, ou la plus grosse année.
Et c'est pas fini en fait, parce que du coup, Evil Empire, ça c'est officiel, ils bossent sur un autre jeu, a priori ça devrait être un gros truc, mais ils continuent de bosser sur Dead Cells, ils ont encore une roadmap qui va peut-être durer 2 ou 3 ans.
Et aussi, important, c'est que la scope donc de Motion Twin existe toujours, donc là il y a 7 personnes aujourd'hui dedans. Evil Empire, c'est un peu plus, ils sont plus de 50,
c'est une grosse boîte.
C'est ça qui est quand même assez ouf, tu vois, c'est qu'on est passé d'une petite boîte communiste à alors là, en fait, on a 2 camions de palettes d'argent qui rentrent, donc qu'est-ce qu'on en fait ? Et on fait une boîte de 50 personnes, et c'est pour ça que je disais que vraiment c'est assez ouf comme le succès a littéralement transformé cette boîte, parce qu'en fait, quand t'as tout cet argent qui rentre et un jeu qui est aussi successful et que tu sais que tu vas pouvoir le faire vivre et qui continue à se vendre à des millions d'exemplaires, comment tu fais en fait, c'est pas gérable en scope, tu vois, donc ça marche plus entre guillemets, et ils ont fait ce choix là donc
il y aurait eu le choix de grossir, parce que c'est souvent ça qui se passe, Motion Twin aurait pu grossir et embaucher 100 personnes, tu vois, Super Giant,
sur une scope,
ça marchait pas sur leur modèle en fait,
parce qu'il fallait aussi en fait il y avait toutes ces personnes là, elles avaient c'est elles qu'on dirigeait un peu Dead Cells et qu'on créait le truc, mais après tu peux pas faire ça à 58, tu vois, c'est pas possible d'avoir 58 personnes qui disent oui, on va tous valider chaque décision, sinon
pour choisir la marque de café, ça prend 2 ans.
C'est ça, si vous avez déjà essayé de faire des doodles pour une soirée à plus de 5 personnes, vous savez que c'est compliqué, mais c'est vraiment intéressant. Mais aussi l'autre point qui est peut-être un peu moins rigolo, c'est que les personnes qui étaient sur Dead Cells, maintenant c'est plus vraiment les mêmes en fait. La scope de la Motion Twin qui existe toujours,
elle a
c'est
explosé
plus,
entre guillemets, c'est-à-dire que vraiment de l'extérieur Motion Twin il reste de l'équipe de Dead Cells, il reste 2-3 personnes, et sinon c'est des nouveaux associés, des nouvelles associées qui sont arrivées, mais la plupart des historiques en fait se sont barrés,
notamment Sébastien Ménard qui est parti
il y a quelques temps,
qui a même fait son jeu là avec c'est un petit pompier là, je me souviens plus comment ça s'appelle. Blaze, un truc avec Blaze ou quelque chose comme ça, mais je me souviens plus ce que c'est.
Et il est en train de bosser sur un autre truc. Là, je l'avais interviewé l'année dernière à Addon. Mais, et oui, du coup, on avait un petit peu catch-up, tu vois. Il m'avait un peu raconté et il disait que, bah, en fait, c'était devenu compliqué la situation. Ouais. En fait, après, la gestion du succès de Dead Cells a provoqué tellement de questions, de problématiques, de gestion, de politique en interne que finalement, bah, lui, comme d'autres, ont décidé de se barrer, en fait.
Bah, en fait, c'est pas étonnant. Enfin, tu vois, parce que quand t'as tout cette, bah, c'est beaucoup d'argent quand même qui rentre. Hein, il y a quand même une grosse
c'est des millions. Hein.
Ouais, à se partager. En fait, forcément, tu sais, ça bouleverse ta perspective de la vie, des choses, du travail. Qu'est-ce que tu fais après ça? Qu'est-ce que t'as envie de faire? Tu vois, c'est vrai,
d'un coup, les vacances sur Mars, tu vois, c'est faisable.
C'est possible, tu peux les envisager. C'est vrai, ça change tout ton rapport au truc. Et voilà, je pense que le studio ne pouvait pas être prêt, en fait, à ça. Et c'était le jeu de la dernière chance. Et c'est assez marrant. Enfin, il y a un truc un peu ironique, tu vois, de se dire que c'était le jeu de la dernière chance pour ce studio. Et au final, c'est le plus gros succès du studio ever, mais ça a quand même tué, entre guillemets, je mets des gros guillemets, le studio, ou en tout cas le studio humain qui était derrière au moment de Dead Cells, quoi, parce que bah, les gens qui étaient derrière Dead Cells, ce n'est plus vraiment la motion.
Il y a la réalité de l'industrie derrière qui aujourd'hui que ben, des jeux, même comme Dead Cells, qui n'ont pas un scope qui a l'air énorme, on pouvait les faire à 6 ou 7, tu vois, en 2016-2017. Aujourd'hui, si tu veux faire un jeu qui est capable de marcher, bah, il faut partir sur des jeux avec une production value
surtout
beaucoup
plus
grosse, quoi.
On sait que maintenir un jeu en vie comme ça, à la façon jeu service, on sait que ça demande une masse de ressources humaines qui est hyper importante. Ben c'est pour ça que les gros studios, voilà, ils ont des équipes qui sont dédiées. Et en fait, ça coûte très cher à entretenir parce que faut le faire sur la durée. Et là, ben voilà, tu vois, Evil Empire.
Et la masse salariale, elle est vénère. Hein. Ouais. Enfin, t'as 50 personnes, t'as 50 salariés
tous
les mois.
C'est pas du tout le même coup,
il est énervé.
Ouais,
hein,
exactement, ouais, ça change les prix. Parce que faut y vivre à Bordeaux. Attention, hein, ça coûte cher là-bas, les loyers.
Ah oui, on sait ça, hein, dis donc.
Bon, après, comme tu disais, a priori, ils sont pas les 50 sur Dead Cells parce qu'ils bossent sur un autre jeu.
Oui, mais cet autre projet, par exemple, il leur rapporte rien pour l'instant.
Ah non, c'est sûr.
Pour l'instant, donc ils sont plus dans une autre logique, quoi. Et du coup, ben, Motion Twin, aujourd'hui, ben, ils ont pas d'autres jeux dans les tuyaux. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont pas forcément...
Oui, le studio un peu la tête, entre guillemets.
La maison mère, elle a pas forcément de nouvelles idées. Aux dernières nouvelles, hein, donc ça date de moins d'un an, les infos que j'avais glanées, ben, ils sont toujours en train de réfléchir à essayer de trouver des solutions. Donc, tu vois, il y a toujours cette espèce de blocage. Et pour l'instant, la solution la plus logique reste de faire vivre Dead Cell.
Bah un peu comme, tu vois, tu mentionnais Valve en structure horizontale, bah aussi en termes de sortie de jeu, c'est pas bien lourd non plus.
Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait grand-chose depuis un petit moment. Et puis, ils ont une petite manne aussi qui rentre avec un truc qui s'appelle Steam. Ben voilà, je pense qu'on aura fait le tour de Dead Cells. Voilà, gros succès qui reste aujourd'hui, même si Hades est sorti, ça reste quand même une des grosses références du roguelite.
Ouais, le DLC Castlevania, j'ai vraiment envie de l'essayer, tu vois. Je trouvais que c'était une bonne annonce, c'était une bonne surprise. C'est une idée qui est cool, tu vois, qu'ils aient réussi à convaincre Konami de les laisser bosser là-dessus. Je trouve ça, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Ouais.
Non, et puis là, j'ai relancé une game parce que je voulais pas reprendre avec tous les pouvoirs débloqués. J'ai joué à la sortie, donc ça fait bientôt 5 ans. Mais c'est absolument pas déconnant d'y rejouer. En fait, c'est vraiment un très bon jeu. C'est vrai que nous, on a tendance plutôt à enchaîner les jeux. Et moi, je l'ai laissé dans mes vacances d'été de 2018. Tu vois, il est là dans mon cerveau. Mais là, en y rejouant, je fais non, mais en fait, le jeu il est bien. Et je pourrais acheter des DLC, découvrir les nouvelles zones. Il n'y a aucun souci. C'est tout à fait un jeu que je peux conseiller en 2023. Ça et Hades, comme j'ai dit, on n'est pas obligé de les opposer. Hein. Ils peuvent tout à fait coexister. Bon, enchaîner les deux, ça peut être un peu rude. Il faut bien aimer les roguelites, quoi. Mais non, il est tout à fait pertinent même aujourd'hui, quoi.
Très bien, et bien écoutez, merci messieurs, on remercie une nouvelle fois notre sponsor le PlayStation Plus, on rappelle d'ailleurs que Dead Cells est dispo dessus, et puis voilà, il y a d'autres jeux qui sont dispo sur le PlayStation Plus extra, si vous n'avez pas assez de Vania, si vous n'avez pas assez de Rogue dans votre vie, il y a de quoi faire sur le PlayStation Plus, merci à Sony de soutenir Fin du Game, on se retrouve dans 2 semaines pour parler d'un petit jeu je crois, c'est quoi le prochain jeu, comment ça s'appelle déjà
Le Dark Souls des Open World.
Ah voilà, le Dark Souls des Open World, donc effectivement, on se retrouve dans 2 semaines pour parler d'Eldonoringo.
Ça sera les 1 an plus ou moins de la sortie du jeu. On espère que la pieuvre Fin du Game aura des pouvoirs sur le grand cosmos.
Ça, nous le verrons. Vous pourrez en témoigner directement. S'il se passe des choses là, à partir de ce moment là où j'ai dit ces choses dans vos oreilles, c'est grâce à qui? C'est grâce à nous. Donc, donnez au Patreon. et puis voilà, merci de nous avoir écoutés. À la prochaine.
Salut. Ciao.